Et puis tout de suite, le libre journal de Serge Beketch en direct. Bonne soirée à tous, vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 décembre 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 22, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons, résistons.
Voilà, vous voyez qu'elle est revenue. Comment allez-vous, Marquis ?
Fort bien. Puis je suis content de vous voir beau comme bruant.
Mais alors, j'allais vous le dire, moi je vous trouve très beau aussi.
Ah bon, écoutez.
Ça, ça devient un petit peu embêtant, mais on va penser comme ça.
C'est Pink TV, là.
Non,
ah, oui.
Non, c'est rouge et
jaune.
Vous avez
un très beau gilet jaune, pas apparemment.
J'ai le fauteuil pareil.
Ah oui,
c'est la
donc
chute
vous
du
disparaissez
fauteuil,
quand ça. Vous êtes sur le fauteuil.
Voilà, exactement.
Je vais faire des gilets avec les chutes du tissu d'ameublement de ces fauteuils. Donc on a l'impression qu'il est mince. Et que quand il change de pièce, que bon, ça change aussi. Bref, Jean-Paul Argouache, prêtre, bonsoir. Parce que je ne sais jamais
Serge.
Comment on l'appelait. J'ai dit,
ah,
monsieur
oui,
l'abbé, monsieur le curé. Il
est religieux, c'est père.
Mon père.
Mon père, ça fait drôle pour vous,
finalement, qu'on puisse dire.
Ah oui, parce que vous êtes quand même
pratiquement de la même génération.
Vous êtes un gamin pour moi.
Ah. Un jour, peut-être, ce sera éminence.
Encore un Jean-Paul.
Oh, c'est les meilleurs. Jean-Paul.
Hey.
Merci.
Tiens, voilà ma belle-fille qui rentre dans le studio bientôt. Je la salue, je l'embrasse.
Parce que votre fils, il n'a pas maigri, je voudrais pas faire d'histoire.
Oui, bon, enfin, on n'est pas obligé de raconter l'histoire de famille. Donc,
Il est sur les traces de papa.
Alors, il faut quand même que je vous explique, chers amis auditeurs, quelque chose. C'est que ce soir, on avait prévu, comme ça a été annoncé par plein de personnes, que on avait prévu de faire une émission, une espèce de Rio Monton, on avait dit. Hein. C'est-à-dire pour ne rien vous cacher, il s'agit de vous extorquer le maximum de sous pour une œuvre qu'il mérite.
Oh, quelle surprise!
Ah bah, c'est étonnant quand même.
Un orphelinat.
Un orphelinat, puis un orphelinat de chez nous. Voilà. Et alors, l'autre, celui d'en bas, là, le très bas, s'y est mis. Si bien qu'il y a, d'une part, une partie des auditeurs, comment dirais-je, satellitaires qui ne nous entendent pas. Les auditeurs du Mans ne nous entendent pas parce qu'il semble qu'il y ait une panne sur le rediffuseur du Mans. Qu'est-ce qui nous entend pas encore? Et puis, il n'y a plus de, ce soir, je sais pas pourquoi. Téléphoniste, ma cache.
Mais si, elles sont revenues.
Ah bon, elles sont arrivées?
Il y en a une.
Téléthon qui croyait prendre.
L'autre tourne en attendant de trouver une place.
C'est bien.
On fait l'émission quand même?
On peut peut-être écouter de la musique plutôt.
Bon, Serge, je vous en supplie, faites l'émission. Il y a un tas de gens qui écoutent. Bon. Oui, si je repars maintenant, j'aurai l'air de quoi?
Je ne me permettrai pas de faire des commentaires là-dessus.
Donc le diable fait de la radio alors.
Il empêche en faire. Donc raison de plus pour se mobiliser, chers auditeurs, on va donc présenter, parce que souvent on me dit mais vous parlez de Riomont mais finalement vous nous dites pas ce que c'est. Alors ce soir on va le faire, on va vous faire entendre des témoignages d'amis qui font partie de je sais pas si on peut dire l'encadrement, c'est pas tellement le mot, de ceux qui font vivre ce village d'enfants. On va vous faire entendre des témoignages de ceux qui participent à sa construction. On va vous faire entendre surtout des témoignages de jeunes gens qui ont suivi
les aventures. Il faut me rendre un nom plus large. Ouais, les aventures de Riomont.
Oui. Qui ont été élèves.
Qui ont été garçons de Riomont.
Garçons de Riomont.
Et être garçon de Riomont, c'est un titre de noblesse.
Ouais, je trouve. Et un visiteur occasionnel pourra peut-être dire l'impression qu'il a eue la première fois qu'il s'est rendu.
Naturellement, à nos amis habituels. Goffman, qui n'a pas la moindre idée de ce qu'est Riomont, on lui donnera quand même.
Ça fait trois ans que vous m'y invitez.
Oui. Il rêve d'en venir, j'en témoigne, parce que plusieurs fois il m'a dit, Serge devrait bien venir à Riomont, j'espère venir avec lui, etc.
C'est parce que Serge n'y va pas que je n'y vais pas non plus.
Voilà. Tu vois, moi j'y fus.
Bravo.
Voilà.
Et vous aurez naturellement l'habituel festival de tout sautement, crachotement.
Suçage de micro.
Mais auquel nous allons essayer de remédier.
Voilà. Avant tout, je vais demander à Odile Bonivard de venir. Parce que Odile Bonivard, si Monsieur Dansard, architecte, veut bien lui laisser la place. Monsieur Dansard, c'est l'architecte qui construit la.
Mansard, vous avez dit.
Dansard.
Ah, pardon, j'ai compris Dansard.
Bon, oui, mais ça commence pas de la même manière, mais ça finit aussi bien. Qui construit la cathédrale de Riomont. On peut dire ça, la cathédrale.
Ah oui, je pense qu'on peut dire. Voilà.
Mais avant, la basilique, je vais demander à Odile Bonivard.
Bonsoir.
Ça va?
Oui, ça va très bien.
Je ne sais pas si vous distribuez la soupe au cochon, mais visiblement, ce n'est pas vous qui la mangez, parce que depuis la dernière fois, vous avez perdu au moins 76 kilos. Hein.
Oui, mais ça ne m'inquiète pas du tout.
Merci. Avant tout, on va, pour se mettre un peu dans l'ambiance, je vais demander à Franck d'avoir la gentillesse de nous faire un tout petit peu de musique. On peut, Franck? Merci. Alors ça, apparemment, enfin, moi, ce que j'ai vu sur le programme, c'est que c'était de la musique alsacienne.
Oula.
Donc, ah, c'est ça, c'est une musique alsacienne. Donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi cette musique, parce que ça me paraissait, si j'ose dire, introduire le cochon. Alors, Odile Bonivard anime un groupe de jeunes gens qui ont pris en main, enfin, qui ont décidé de faire quelque chose de que je trouve tout à fait sympathique et positif. Ils ont décidé de donner à manger des choses chaudes, de bonne qualité, à des SDF. Et alors récemment, devant la gare Montparnasse, il s'est passé une chose qui est absolument hallucinante. Enfin, j'ai lu le récit que vous en aviez fait, et je suis tombé de mon haut, je ne sais pas, à l'invente ou quoi. Et puis il se trouve que j'ai un autre, un correspondant m'a envoyé par courriel exactement le même récit que vous, dans d'autres termes. Donc j'en ai conclu, il n'y a pas, contrairement à ce qui se passe dans l'évangile, pas trois témoins, il n'y en a que deux pour l'instant. Mais j'ai quand même trouvé que c'était intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ça.
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc redémarré pour la troisième saison consécutive nos distributions donc de soupe populaire au lard. Hein, et ça se passait donc devant la gare Montparnasse. Et jeudi dernier, ben en fait, ça s'est mal passé parce que on était attendu par une armée de policiers en tenue de Robocop, pire que si on était des terroristes, et qui prétendaient donc ne pas nous laisser distribuer la soupe. Alors ça a commencé par une fouille méthodique donc de la camionnette de mon mari, puisque d'habitude la soupe elle est dans la camionnette, mais c'était quelque chose d'hallucinant. Je veux dire 25 flics en train de fouiller la camionnette à la recherche d'un petit bout de couenne qui serait resté coincé entre deux sièges, c'était quelque chose du genre vous n'avez rien à déclarer, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un bout de cochon qui traîne là-dedans.
Bon, clandestin.
Absolument. Et manque de bol pour eux, la soupe elle était pas là, elle était dans un autre véhicule. Bon. Et comme ils ont fini par nous autoriser à distribuer quand même des vêtements, mais aucun aliment, et comme on n'était pas décidé trop à se laisser faire quand même, on a quand même un petit peu forcé le destin et on est arrivé avec la marmite.
Excusez-moi, je vous êtes allé un peu vite là. Ils vous ont dit vous pouvez distribuer des vêtements,
oui,
mais pas d'aliments.
Pas de soupe au cochon.
Est-ce qu'ils ont vérifié avant que dans les vêtements il n'y avait pas des trucs en box, par exemple, ou en peau de porc?
Je sais pas, mais c'était...
Des chaussures en peau de porc, vous vous rendez compte?
Et on n'a même pas pu avoir de raison valable, parce qu'à chaque fois qu'on...
Oui, bon,
il faut savoir ce que ça représentait donc sur place, sur l'esplanade de Montparnasse, ça représentait une trentaine donc de SDF en train de chanter sur l'air des lampions, on a faim, on a faim, on a faim. Ça représentait au moins 25 bénévoles de l'association qui râlaient et qui disaient c'est pas normal qu'on puisse pas distribuer, etc. Ensuite, ils nous ont donc ceinturés avec un cordon de flics et ils nous ont emmenés sur les lieux de distribution des vêtements, donc pour qu'on être sûr qu'il y ait personne ne s'échappe. Et puis ensuite, donc quand la voiture avec la marmite est arrivée, alors là, ça a été le débordement de... Enfin, ils se sont jetés dessus.
Peut-être faim, les flics, non?
Je sais pas, mais il y en a même un qui a téléphoné vite au téléphone, on l'a entendu dire ça y est, on la tient, on a la soupe au cochon, on l'a.
Ah, voilà. Le but, ils sont arrivés à arrêter une soupe au cochon.
Et la réaction des SDF, alors qu'eux attendaient pour bouffer.
Alors, les SDF, eux, ils ont été exemplaires, en ce sens qu'ils se sont laissés ceinturer avec nous, ils se sont laissés emmener avec nous, et ils ont chanté la Marseillaise tout le temps qu'on était en train de discuter avec les flics. C'était quand même quelque chose d'assez épique.
Enfin, en tout cas, donc c'est le préfet qui a donné les ordres.
Alors, les ordres venaient donc du préfet de police de Paris.
Qui vous l'a dit?
Absolument, un commissaire. Oui.
Donc on a un préfet de police à Paris qui n'aime pas le cochon.
Mais il n'aime pas le cochon, mais c'est dommage pour lui parce
que. Il travaille pour qui? Pour les marchands de poissons, les marchands de chevalins.
Je sais pas. Nous on met du cochon dans la soupe.
C'est végétarien peut-être.
C'est nourrissant, c'est un aliment qui est nourrissant, c'est une viande qui n'est pas très chère, donc c'est quand même assez abordable pour nous en tant qu'association caritative. Donc bien sûr c'est intéressant. Et puis le cochon, ça fait partie de nos traditions culinaires ancestrales. Il n'y a pas de raison qu'on abandonne ça. Alors je sais pas pourquoi ils aiment pas. Bon bah écoutez, tant pis pour eux, parce que nous on continue.
Alors, il faut faire attention dans le choix de vos menus à venir, parce que Si par exemple, il vous venait la fantaisie de remplacer le, je sais pas, le cochon par du homard, par exemple, ça marche pas, c'est pas cachère non plus.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la marmite est apparue quand même au cours de la soirée, par un tour de passe-passe que nos jeunes militants ont assuré avec intelligence, on va dire, eh bien, ils se sont jetés dessus et ils voulaient nous saisir la marmite comme pièce à conviction.
La marmite,
c'est vrai. C'est pourtant vrai. Et là, donc, on n'a pas eu besoin de réfléchir bien longtemps. La soupe au cochon a préféré mourir que de se rendre. Et ça s'est mis à voler partout, quoi. Des lardons sont atterrés sur les uniformes. Il y a un flic qui s'est pris un saucisson à l'ail en pleine
tête. Mais ce que vous venez de dire, je comprends tout. C'est la bande des avorteurs qui a...
Ben oui, les lardons, c'est ça, bien sûr.
Les lardons,
ben voilà.
Peut-être bien.
Ben voilà. En tout cas, ben, si le préfet de police veut des adresses pour lutter contre le cochon, je peux lui en indiquer à Pigalle. Hein.
C'est quand même extraordinaire. Si on veut bien s'attarder une seconde là-dessus, c'est quand même énorme, parce que... Tout est permis à Paris en ce moment.
Comme disait
le marquis à l'instant, pour le cochon, il y a quand même des boutiques qui pratiquent le cochon d'une façon assez dynamique.
Le cochon fouetté.
Mais le cochon en marmite, non, c'est pas permis.
La SNCF affiche le Père Noël en train de rentrer dans une maison de passe à Amsterdam.
Où il va s'envoyer
un rennes.
Un rennes.
Ah oui, voilà, le rennes, c'est permis.
Il n'y a pas de problème.
Ça doit faire rêver les petits enfants, ça.
Mais tu connais la vieille formule, comme une rennes, c'est bon.
Ouais. Donc la soupe a volé. La soupe au cochon a préféré mourir que de se rendre. Et elle a volé un peu partout. Et ça a été assez... Bon, alors après, on en rigole, mais...
Quelle était la réaction des policiers qui faisaient ça?
Ils étaient bien embêtés, une fois de plus.
Ils n'ont pas l'habitude de saisir des marmites de soupe au cochon.
Non. Et puis, en fait, c'est toujours un peu le même discours. Hein, vous savez, nous, on est bien d'accord avec ça, mais on a des ordres.
Vous ne leur avez pas expliqué que quand on exécute des ordres iniques, on est complice de ces quand il y aura un jugement de Nuremberg,
ils iront
directement.
Vous inquiétez
ils seront
pas.
Punis comme...
Vous inquiétez pas, Serge, ça a été expliqué clairement même, très clairement.
C'est bien. Et moi, je voudrais rencontrer, pas le préfet de police, parce qu'il est inabordable, bien sûr, puis il a raison.
Comment il s'appelle, on nous le demande.
Qui est le préfet de police de Paris?
Oui. Alors ça, c'est la question piège, je l'ai plus.
Si quelqu'un parmi nos auditeurs connaît le préfet de police de Paris et son nom, dénoncez-le, n'hésitez pas, on donnera son nom à l'antenne.
On nous le demande, nos auditeurs nous le demandent.
C'est pas Mazziotti?
Je ne sais pas. Ouais. Alors franchement, c'est des choses, j'ai déjà du mal à retenir les noms des ministres.
Je peux donner un autre nom, c'est celui d'Alain Sanders, rappelez-vous, Serge, il y a un an, je crois.
Oui, il n'est pas préfet de police de Paris.
Mais il est mieux que ça, puisqu'il y a un an, il me semble, il a publié Le Port clandestin.
Tout à fait. Il me l'a offert d'ailleurs.
Voilà, un livre donc qui reprenait
On avait dit, tu déconnes.
La traversée de Paris.
Non,
Et donc son récit, c'était de reprendre la traversée de Paris et de deux Français qui traversent Paris en 2012 avec une valise pleine de porc clandestinement. Seulement, les policiers qui leur courent après étaient barbus dans son roman. Et finalement, il était bien pessimiste, puisqu'il n'y a pas besoin de policiers barbus. Pour avoir du porc clandestin chez nous, en France, aujourd'hui.
Mais je voudrais rencontrer le commissaire qui a dirigé cette opération. Est-ce que vous imaginez un commissaire? Un commissaire, c'est un type qui a fait combien d'années de droit?
Au moins 3 ou 4 ans.
Ou 6 ans. Donc ce type, il est entré dans la police pour dire... Il a dit, quand il était jeune, il disait, moi, je ne supporte pas la délinquance, je ne supporte pas l'irrespect pour la République, etc. Donc je rentre dans la police pour faire respecter le droit, la justice et la loi... Et quand il arrive dans la police, il monte, il grade, tout ça. Il vient franc-mac, bien entendu, parce qu'autrement, il s'arrête au grade de ramasseur.
Le tablier en pot de cochon, quand même.
Comment?
Le tablier en pot de cochon.
Il porte le tablier en pot de cochon. Et puis, il devient commissaire.
Oui.
Comme une fois qu'il est franc-maçon, il n'y a plus d'obstacles, donc il devient commissaire.
Oui.
Et là, il y a un préfet de police qui le convoque et qui lui dit...
Il faut saisir des soupes.
Mon frère, vieux, vous allez aller saisir la soupe au cochon.
Et
le mec se dit... Ça fait 30 ans ou 35 ans que je rêve de rétablir l'ordre dans la République. J'ai fait 10 ans d'études et ce qu'on me demande, c'est de saisir la soupe au cochon.
Oui, c'est vrai.
Il doit être fier de ses parents doivent lui dire, mon fils, Vraiment, tu participes.
On a bien fait de se faire des sacrifices.
Voilà, on s'est sacrifié, on t'a payé tes études, bravo. Vraiment que tu sers à quelque chose.
Les blagues dans le coin, madame, vous devez savoir.
Blague dans le coin.
En droit, vous devez savoir, vous pouvez nous dire si en droit, cette intervention est fondée ou non.
Non, bien sûr que non, elle n'est pas fondée.
Il
n'y a aucune loi en France qui interdit de donner de la soupe au lard à des gens qui ont faim dans la rue. Il n'y en a aucune. D'ailleurs, si nous, on nous aurait arrêté depuis longtemps de le faire. C'est le troisième hiver qu'on le fait.
Alors,
on
le
l'a
préfet
fait toutes
de police
les semaines, deux années de suite.
De Paris est dans l'illégalité. Mais on devrait crier un peu plus fort, peut-être, et rigoler
peut-être,
un peu moins.
Peut-être. Mais de tout, rigoler, je veux dire. Oui, ça peut faire rire, parce qu'en fait, ce qui s'est passé cette soirée-là, il y a eu une échauffourée, on est rentré. Après, chacun est rentré chez soi, tranquillement, dans ses chaussons et au coin de sa cheminée. Sauf ceux qui ont été privés de bouffer. Ceux-là, ils ne sont pas rentrés chez eux, ils sont restés sur le trottoir. Et moi, je n'accepte pas ça. Et ils ont tous été prévenus. Alors, évidemment.
Qui les a mis sur le trottoir, d'ailleurs? Encore une question juridique intéressante.
On pourrait en parler de ça.
C'est pas le préfet de police de Paris.
Ce qui est sûr, c'est que donc jeudi soir, rendez-vous a été donné donc pour demain soir, mais avec un nouveau lieu, et ça a été donc donné de vive voix à tous les camarades qui étaient présents sur place. Alors donc on va utiliser le téléphone arabe pour communiquer entre nous, puisque
c'est un bon système.
On va être obligé d'être un petit peu plus discret dans ces conditions-là.
Mais clandestin même. Voilà le port clandestin.
Mais de toutes les façons, on en a vu d'autres et ça nous fera pas arrêter. Non seulement ça nous fera pas arrêter, mais on est même passé au degré au-dessus. C'est que donc demain soir, c'est le petit cochon rose qui laisse la place à son ancêtre, le sanglier, qui devient beaucoup plus dur de poils, beaucoup plus hargneux. Et donc, demain soir, c'est menu cochon sauvage au menu pour demain soir, pour nos amis SDF. Et
le cochon véhiculé content par le téléphone arabe, je trouve ça plutôt sympathique.
Oui, mais oui. Hein? Et c'est pourtant bien la
vérité. Au moins, c'est voilà un bel exemple d'intégration communautaire.
Alors, encore une chose que je voulais ajouter, c'est qu'on ne représente pas un épiphénomène, d'intégristes du cochon sur Paris, puisque donc il y a une soupe au cochon également qui a démarré à Nice, donc avec nos camarades de Nice, et qui se passe, ma foi, un petit peu de façon agitée, mais qui se passe bien quand même, hein. Donc il y a lieu ce soir, je sais que ce soir ils sont sur le terrain. Il y en a une également qui se passe depuis plusieurs semaines également très bien à Charleroi, en Belgique, toujours sur le même thème, soupe au cochon, et il y en a une qui vient tout juste de démarrer à Nantes. Donc c'est pas la grippe aviaire qui s'étend, c'est le, je sais pas quoi, on peut appeler ça comment, mais de toutes les façons, le cochon n'a pas fini.
C'est quand même la première fois qu'on voit des poulets s'opposer à la distribution du cochon.
Maintenant, pourquoi on ferme pas le pied de cochon ou voile aussi?
Pourquoi pas?
Ah, mais tout à fait, mais vous avez raison, Jean-Marquis. J'en appelle au préfet de police de Paris. Je signale que pour la première fois depuis, je ne sais pas, 18 ans que je fais cette émission, je n'ai pas encore la réponse à la question que j'ai posée. Donc, à mon avis, c'est un anonyme, le préfet de police de Paris. Parce qu'il n'y a pas un auditeur qui a téléphoné pour donner son nom.
Il faut fermer le pied de cochon parce qu'en plus, ça appartient aux frères blancs.
Alors là, c'est grave.
Alors là, il y a cumul.
Je prendrais pas le deuil personnellement parce que ça a beaucoup baissé.
Non, c'est pas vrai. C'est une très bonne maison. Je suis désolé de vous le dire.
Ah, on sort de manger avec des huîtres.
Mais c'est une des rares maisons que nous fréquentons avec ma charmante épouse de temps en temps.
J'ai gaffé.
En tout cas, le personnel est absolument charmant.
De temps en temps, faut dire.
De
temps en temps, sinon on va croire que vous roulez sur l'or.
Et qu'il est inutile de s'abonner au Libre Journal. Pour qu'on finisse par en parler un moment et que l'auditeur n'envoie pas tout son pognon au père Arouard.
Ça fait à peine 20 minutes que l'émission a commencé, il veut déjà essayer de fourguer son canard. Il est gonflé, mon canard, pardon.
Mais après le cochon, le canard, le poulet,
Madame Bonivard, avant de faire ruisseler l'argent vers le père Argouache, est-ce qu'il y a moyen de vous aider? Mais n'envoyez pas trop d'argent quand même à soupe au cochon, parce que après on va vous en redemander pour...
En plus,
je vous poserai la question, est-ce que vous donnez à manger du cochon à vos enfants? Enfin, pas à vos enfants, mais aux enfants dont vous vous occupez.
Vous savez très bien qu'on élevait des porcs. Il y avait une très grande porcherie à Ribon, mais à cause des problèmes sanitaires, des problèmes d'inspection, eh bien, on ne peut plus en avoir. Et donc,
vous aviez des chiens aussi. C'est pas pour ça que vous faisiez bouffer du chien à vos cochons. C'est vrai qu'il y avait des beaux cochons.
Oui,
il y avait des poneys, des cygnes.
Ils ont tout bouffé, là.
Des cygnes du ciel. Non, je crois que c'est les chiens qui ont bouffé.
On n'a pas le droit de donner à manger à des enfants une viande qui n'est pas contrôlée. Les fermes, ils le savent très bien.
Mais le préfet de police vous remercie, vous êtes en train de lui souffler une solution légale, il va déclarer, vous prenez le pari, dans 15 jours, il y aura une circulaire disant que c'est pas hygiénique, les cochons, et même impurs.
Un auditeur c'est nous dit halal. J'ai entendu dire que dans certaines écoles, on ne servait plus de poisson le vendredi car c'était trop religieux. Est-ce vrai?
Bien sûr,
je pense que c'est.
Et on
ne
sert plus de porc non plus.
Non plus, parce que.
Et on ne peut plus servir de vache parce qu'elle est folle. On ne peut plus servir de poulet parce qu'il est grippé.
Moi d'ailleurs. Alors, je vais vous raconter quand même une chose qui m'est arrivée là il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 jours, puisque donc pour ce menu donc de demain soir, on fait un menu un peu plus élaboré, puisque à l'approche des fêtes, ils ont le droit aussi d'être gâtés. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les auditeurs qui sont généreux avec nous et qui nous envoient des sous. Ça nous permet donc de leur donner des petits menus comme ça améliorés. J'ai donc commandé, je suis dans ma bonne ville des Yvelines où j'habite, j'ai dû faire, tenez-vous bien, 4 pâtissiers. Pour trouver des petits cochons en pâte d'amande. Vous savez, le gâteau rose, là, en pâte d'amande. Alors, il y en a un, il en faisait pas, il en a jamais fait, c'est vrai. Bon, j'y suis allée au hasard. Le second, j'en ai déjà vu dans sa vitrine, et en plus, j'en ai déjà acheté et commandé, etc. Eh bien, il m'a soutenu. Il y avait la queue dans son, il m'a soutenu qu'il n'y avait jamais eu de cochon dans sa vitrine. Sur le thème, il n'y a jamais eu de cochon ici. Le troisième, pareil. Non, non, on fait pas ça. On fait pas
fallait
de cochon.
Dire, c'est pas ce que m'a dit votre vendeuse.
Non, mais c'est. Et donc, j'ai dû en faire 4 pour enfin trouver un pâtissier gâteaux. Très heureux, donc, de nous fabriquer 35 petits cochons pour le dessert de demain soir.
Quand je commence l'émission en disant amis de la résistance, bonsoir, moi on est trop isolés, ils nous écoutent pas.
Hein.
Pas
le cochon, c'est une arme de résistance. Moi,
amis de la collaboration,
Vous parliez de sous, à quelle adresse déjà?
Alors donc, j'ai donné ça donc, à Victoria. Alors donc, notre adresse postale, SDF comme Solidarité des Français, boîte postale 10906. Boîte postale 10 906 75 829 Paris CEDEX 17.
On le répétera. Hein.
Voilà.
Et l'adresse internet.
Alors l'adresse internet, bon les trois.
Sans indiscrétion, non. Puisque vous êtes clandestin. Là.
Les trois www.association au singulier le petit tiret du 6 sdf.com. Alors une chose intéressante sur le site, c'est que dans la rubrique action, il y a donc depuis quelques jours deux fiches pratiques qui s'appellent fiches pratiques numéro 1 et numéro 2. Et ces petites fiches, elles sont donc imprimables. Et pour toute personne qui serait désireuse de se lancer dans l'aventure de la soupe au cochon, et croyez-moi, c'est une vraie aventure, eh bien tout est expliqué. Enfin, il n'y a plus qu'à attraper le cochon. Voilà.
Alors, cochon qui s'en dédie.
On a la réponse à la question. Le préfet de Paris s'appelle Pierre Mutz, ouais. M comme Michel, U-T-Z. C'est un si rare, nous dit l'un. Il est officier.
Mais Mutz, c'est un nom alsacien, ça.
Il est officier de la Légion d'honneur, il y a un autre.
Et toutes nos félicitations à Monsieur Mutz, officier de la Légion d'honneur.
On nous demande alors, si on vous empêche, on nous donne un conseil.
Est-ce qu'il a la rosette?
Vous donne un conseil.
Ah oui, officier, il a la rosette. Officier, c'est la rosette.
Oui, la rosette. Ah ben oui, c'en est, oui.
Si l'on vous empêche de distribuer la soupe au lard sans motif, vous avez le droit de vous faire accompagner d'un huissier et de porter plainte contre X pour faire un maximum de pub à cette affaire.
Et l'huissier, il faut qu'il travaille gratuitement parce qu'autrement, il pique le fric aux amateurs de cochons.
Quelqu'un vous demande aussi quelle a été la réaction des témoins, des passants.
Ben, les gens de la rue, en fait, quand ils ont vu 35 flics bottés, casqués, la matraque en bandoulière qui se faisaient attaquer à coups de lardon, franchement, ils en sont restés baba et voilà. On a dû leur expliquer ce qui se passait. Et c'est vrai que le quidam de la rue a trouvé ça complètement incroyable. Il y en a même plusieurs, donc plusieurs passants qui les ont envoyés dans les banlieues en leur expliquant qu'il y avait encore des voitures qui brûlaient à cette heure-ci et qu'il y avait autre chose à faire que de nous empêcher de faire le bien.
Vous vous rendez compte, pour les Français, la situation va devenir extrêmement tendue parce que les boudins pourront plus sortir dans la rue, les andouilles pourront plus loin de se montrer.
Ça va faire de la place.
Madame, ne diffamez pas les banlieues, surtout pas la banlieue parisienne et surtout pas le 93. Je vous rassure tout de suite, on n'y brûle plus de voitures. On brûle des femmes comme d'habitude. Il y a 3 jours, à Bondy, une Marocaine a été brûlée vive par son Marocain. 3 semaines après l'affaire Scheherazade, dont les auditeurs se souviennent certainement. Donc,
oui, ma chère.
Voilà. Donc, c'est fini, on brûle plus de voitures, on brûle des femmes comme d'habitude.
Bon. Alors, on a un ami québécois qui nous téléphone en disant, enfin, qui nous faxe. Mais ça, je suis bon. Le cochon, c'est pas la peine de le chercher très loin. Il est à la mairie de Paris. Je savais pas qu'il y avait un cochon à la mairie de Paris. Vous saviez ça,
moi, je il y a tellement de gens. Vous avez dit de pas déraper, Serge, je voudrais savoir.
Non, mais attendez. Il y a tellement de monde à la mairie de Paris. Pourquoi? Il y a un perroquet.
Oui.
Il y a même un perroquet vivant. Enfin, j'espère qu'il est toujours vivant, le pauvre. Pourquoi il n'y aurait pas un cochon? Et il y a un âne. Non, pas à la mairie de Paris, à Beaubourg. Alors ça gêne personne. Vous avez vu ça?
Non.
Il paraît qu'il y a 4 ânes qui sont exposés à Beaubourg. Avec, on a écrit sur leur pelage, alors ce qui inquiète beaucoup d'ailleurs les amis des animaux, sur le premier Bouddha, sur le deuxième Mahomet, sur le troisième
Moïse
et sur le quatrième Jésus. Ça, ça emmerde personne.
Non, non, mais ça, oui, c'est pas écrit.
Ça, c'est tout à fait normal. Il y a pas, c'est pas comme si c'était du cochon.
Ah, oh, ben là, là, catastrophe.
Alors, Odile Bolivar, merci d'être venu nous voir et de nous raconter les aventures de Naf Naf.
Une auditrice nous signale que dimanche dernier, dans l'émission de Carl Zéro sur Canal+, ils ont parlé de vos mésaventures avec votre soupe.
Oui, oui,
en
c'est
rigolant,
vrai.
Bien entendu.
Oui, oui, mais ils nous ont fait une sacrée pub en attendant. Ah, oui. Je la remercie beaucoup.
Et sur une radio, BFM, j'ai entendu qu'un restaurant spécialisé dans le cochon s'est ouvert à Montreuil. Ils ont dit, dans la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas que des voitures qui brûlent, on fait griller aussi le cochon. Je crois que le préfet de police, alors on nous redit pour Pierre Mutz, je ne sais pas. Cela étant, je vous signale que l'animateur de télévision Arthur a déclaré vouloir financer une soupe cachère.
C'est vrai.
L'être
mais il ne faut surtout pas qu'il gêne. Alors là, c'est vrai. Tout à fait d'accord. Tout ce qui peut donner à bouffer à ces pauvres gens.
La chorba à la mosquée de Paris.
La chorba, la soupe.
C'est pas interdit, ça, je crois.
Non, non, c'est vrai.
Non, non, mais c'est normal, mais c'est très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord.
On a servi de la chorba, monsieur Bouteflika.
Si vous pouvez bouffer aux frais d'Arthur, c'est vraiment le rêve, là. Alors, allez-y.
Serge, vous qui savez tout, monsieur. On a servi de la chorba.
Non, 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 non. Il peut pas manger n'importe quoi parce qu'il a des problèmes de colon.
Monsieur, ah oui, je parlais de monsieur Bouteflika.
Ben, oui, c'est lui qui a des problèmes de colon. Et on se réveille que fin.
Oui. Ben, mon colon.
Voilà. J'ai rien compris.
Je peux finir sur Bouteflika.
Oui,
c'est un sujet prévu. Pardon. Oui, parce que nos auditeurs se font un sang d'encre pour la santé de monsieur Bouteflika, qui a dû se faire hospitaliser chez l'oppresseur colonialiste pendant 3 semaines, et je voudrais les rassurer. Il est sorti du Val-de-Grâce, donc le meilleur hôpital de France, après 3 semaines d'hospitalisation, et il se repose actuellement. À l'hôtel Meurice, presque, vous brûlez. À l'hôtel Meurice, que vous connaissez encore mieux que Madame Claude, mon cher marquis, je crois, qui est un des grands palaces parisiens.
Oui, chez Maurice.
Et voilà. Et c'est avenue de Rivoli, je crois.
Rue de Rivoli.
Et il a émis un message de remerciement.
Non.
Mais si.
Quand même, il a remercié.
Il a remercié avec effusion, donc. Mais je continue
avec
rassurer.
Il est quand même correct.
Non, mais vous allez voir qu'il est quand même dans son état normal, donc en bonne santé. Puisque, je cite la presse algérienne d'hier, notamment La Tribune d'hier, Abdelaziz Bouteflika exprime ses remerciements au peuple algérien. J'ai dit, je n'ai rien à ajouter.
Ah ben mince alors, je tombe de l'armoire.
Mince, oui, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'il est à la diète, il doit être plutôt mince.
Oh, c'est pas vrai.
Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voulait dire. C'est intéressant, non?
J'ai pas dérapé, Serge.
Ah,
je cite La Tribune d'Alger, je peux pas faire mieux.
C'est le virage. Au mieux. Merci, alors, Odile.
Attendez, pardon, j'ai d'autres choses encore. Toute la journée sur RMC, on a entendu dire que la soupe au cochon était interdite à Nice. Et parce que le maire a suivi, ça a été interdit car les malheureuses SDF arabes ne pouvaient pas en manger.
Non, mais les autres, alors.
Elle n'est pas interdite, elle a lu en ce moment.
Il paraît qu'ils ont arrêté ceux qui distribuaient cette soupe.
Bon, enfin, l'ordre règne à Varsovie. à Nice. Sous la houlette de M. Perra, ancien du Front National. C'est formidable.
Ça explique tout.
C'est formidable. On ne s'ennuie pas une seule seconde dans ce pays.
Un auditeur franc-maçon tient à signaler que même au sein de leur ordre, certains sont choqués de l'interdiction de la soupe par la police française.
N'est-ce pas, mon vénérable frère?
Et alors, les Français, et tous les Français, savent-ils, et le préfet de police avec, que la plupart des bonbons contiennent en grande quantité de la gelée de cochon?
Ah, super! Enfin une bonne nouvelle.
Plus de bonbons pour les mauvais. Merci encore une fois d'être venu nous voir.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Et puis j'espère que on vous aidera. Peut-être que quand vous aurez un peu plus de trucs, vous pourrez distribuer du homard.
Non, on en reste au cochon et au sanglier les jours de fête. Merci.
Bon, écoutez, si vous êtes têtu, qu'est-ce que je vous laisse.
Tête de lard, vous le savez bien.
Alors, à propos de Nice, on nous dit que ça a été interdit. Car on aurait demandé aux gens leur carte d'identité pour
mensonge
avoir de la soupe.
Absolu. Je suis certain que c'est un mensonge. Je connais trop nos camarades de Nice. Ils sont trop intelligents pour avoir fait une connerie pareille. Alors, donc ça, c'est un mensonge pur et simple.
Absolument, aussi idiot.
C'est tout ?
C'est pour le moment.
Les mensonges ou on continue ?
Bah, on vous expliquait aussi l'histoire du satellite au début. Je vous écoutais sur le satellite.
Trop compliqué, on va pas.
Non, mais il faut balayer les fréquences.
Balayons.
Et voilà. Balayons devant notre porte.
Merci, on est venu, à bientôt. Vous savez, c'est quand même. On blague, mais.
Ouais.
Je voudrais dire deux choses, c'est que. On blague parce qu'il y a un niveau degré d'écœurement, de dégoût qui ne suscite que la rigolade, parce qu'autrement on devient fou.
Politesse et désespoir.
Ouais. Et puis, malgré tout, c'est quand même énorme, parce que si vous voyez ces jeunes gens, enfin pas seulement des jeunes gens, Odile c'est pas une jeune fille, c'est une dame, elle est mère de famille et tout, qui se sacrifie, des soirées entières, des journées entières pour préparer la bouffe, pour la transporter. C'est très emmerdant de transporter des marmites de bouffe dans des bagnoles. Ça sent fort, ça salit, ça se renverse et tout. C'est pareil avec la soupe du roi. Nos amis royalistes font la même chose. Et je pense recevoir prochainement un groupe de royalistes qui font ça, ils se sont pris en main à quelques-uns, ils vont distribuer là. Alors bien sûr, ils couvrent, c'est pas les restaurants du cœur, c'est pas une affaire qui fait un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros par an. C'est des gens qui se prennent en main individuellement, en groupe, en petite communauté, et qui font ça dans un coin pour eux. Bon. Et on ose en leur envoyer les flics, mais monsieur Moutz, vous avez pas honte, franchement, mais vous pouvez regarder dans la glace? Mais c'est incroyable! C'est incroyable cette attitude. Alors, il va dire, mais moi j'obéis à des ordres.
Ah oui, d'accord.
Je répète, monsieur Moutz, préfet de police de Paris, qui interdisait la distribution gratuite de soupe aux cochons, aux SDF qui crèvent de froid et de faim, vous obéissez à des ordres. Mais c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'ont dit tous les tortionnaires.
Ah,
chaque fois qu'ils ont été pris, ils ont dit, mais moi j'obéis à des ordres. Mais ça les a pas empêchés d'être pendus. Alors, je dis
quand
pas qu'on
le nombre de gens qui sont en train de crever dans les rues de Paris, qu'on renverse la soupe dans le caniveau, enfin c'est incroyable.
Et la chaîne ne s'arrête pas au préfet de police, parce que tous les exécutants, y compris le dernier des petits poulets qui accepte de se prêter à cette manœuvre, c'est un complice d'un truc répugnant. Ce sont des salauds, voilà quoi, c'est tout.
C'est 2 degrés aujourd'hui à Paris, je dis ça pour nos auditeurs de Tokyo et de Canberra, et il y a déjà eu 10 morts dans cette belle capitale depuis le début de l'hiver.
Voilà. Alors en revanche, je sais pas si vous avez vu cette histoire tout à fait extraordinaire qui est l'affaire Panafieux. Vous n'avez pas vu l'affaire Panafieux ? Ça, c'est pour moi qui le raconte. Hein. Je rends à César ce qui est à Jules. C'est le Canard Enchaîné qui révèle que le patronat. Comment ça s'appelle maintenant le truc du patronat ? Le MEDEF, oui. Le MEDEF a fait un sondage publié dans le Parisien du 22 novembre établissant que parmi les candidats UMP au municipal de 2008 à Paris, Françoise de Panafieux a 46% des électeurs de droite contre 24% pour Tibéri, 17% pour Lelouch, 5% pour Claude Gouaz-Gouen. Et c'est tout à fait intéressant parce que le 17 décembre, donc 3 semaines plus tard, le groupe du Parisien, la direction du journal, a dit à la suite d'une regrettable erreur, le sondage IFOP que nous avons publié a été présenté à tort comme commandé par le Parisien. Nous n'avons jamais passé commande de cette enquête. Nous nous sommes contentés d'en publier les résultats.
Et qui l'a commandé ?
Alors qui l'a commandé et qui l'a payé ? Parce que vous savez ce que ça coûte un sondage.
C'est pas exactement le MEDEF, c'est-à-dire je me permets de vous corriger avant qu'on ait des problèmes. Ouais. C'est le club de l'UTES créé pour soutenir Madame de Panafieux, mais dont le président Jacques Dubus est aussi le délégué général du MEDEF.
Ah non, c'est un cousin quoi.
Alors, mais qui l'a commandé ce sondage ? Dit le Canard Enchaîné. La mise au point du Parisien ne le dit pas. En fait, il a été gracieusement offert par Laurence Parisot, patronne de l'IFOP et nouvelle présidente du MEDEF. Par François. Alors, moi, quand j'ai lu ça, j'ai pris 2-3 renseignements, on m'a dit, mais il se trouve que Vous n'allez pas attaquer Madame de Panafieux, quand même. Je dis non, pas du tout. Pourquoi j'attaquerais Madame de Panafieux? J'ai rien pour elle, rien contre elle, je m'en fous. Elle m'a dit non, parce que Madame de Panafieux, c'est très exactement, mais très exactement, point pour point, mais très précisément, exactement le contraire de Monsieur Delanoë. Si, si, trait pour trait. C'est en quelque sorte le négatif de Delanoë.
Ah, ça se passe pas dans le même sens. Hein.
Et alors,
ces sondages, j'ai été très favorable.
Voilà, et il paraît qu'elle est très copine avec Madame Parisot. Elles sont très 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 copines, elles s'entendent comme la ronce en foulard. Et donc après quelques intermoments, dit le canard enchaîné, la direction de l'IFOP a reconnu que cette enquête en forme de déclaration d'amour, bah, pourquoi employer ce terme, enfin, incroyable.
Enfin, d'amour salarié.
Ils s'en foutent les canards enchaînés, là.
D'amour
une forme de déclaration d'amour à Madame Panafieux a été en réalité commandée et payée par le club Lutèce. Créé pour soutenir Panafieux, son président Jacques Dubus, c'est pas lui qui fait des déclarations d'amour à Madame Panafieux, est aussi le délégué général du MEDEF Paris, c'est-à-dire le salarié de Parisot.
Ce qui jette à nouveau une fois.
Donc c'est lui qui apporte les messages.
Ce qui jette un peu d'ombre sur les sondages en général, Serge, puisque une fois de plus, on a l'impression que c'est la société qui paye les sondages, qui les voit revenir en sa faveur.
Oui,
c'est un club panafieux qui nous annonce que 48% des Parisiens sont prêts à voter.
Mais ça pour pas, c'est pas parce que c'est le club panafieux qui dit que c'est pas vrai. Il se trouve que c'est comme ça. Quoi.
Moi, j'avoue, hein? Je démarque.
Vous tombez des nus.
C'est l'exact inverse de Delanoë.
Bah oui. Enfin, les Parisiens savent ça, mais vous n'êtes pas un peu parisien sur les bords, vous?
Je suis en Martrois, c'est pas exactement.
Ah bah oui, c'est ça. Vous appartenez à la République. Voilà. S'explique.
Pendant que vous scrutiez la page 2 du canard enchaîné, moi j'ai pensé aussi que je pouvais lui faire de la publicité en scrutant la page 3, et pas sur Delanoë, mais sur Delanoa. Yannick Noah donne une interview au Parisien, tout le monde a vu, à Paris Match, pardon. Tout le monde a vu la une de Paris Match, Yannick Noah avec cette belle blonde, et il dit ceci: une chose est sûre, si jamais Sarkozy passe, je me casse. Alors c'est terrible parce que
Sarkozy
il va retourner au Cameroun, il va emmener Dieudonné avec lui, comme d'ailleurs je le suggérais moi-même dans le Libre Journal il y a 15 jours, et il risque d'entraîner avec eux des millions de gens qui nous sont indispensables.
Je pense que c'est Sarkozy qui fait courir ce bruit.
Alors toujours est-il que notre ami Genestar, qui est le patron, le directeur de la direction de la rédaction de Paris Match, a pris conscience immédiatement de la gravité et des mouvements de population que cette déclaration risquait d'entraîner, et il l'a censuré, il l'a caviardé, il l'a coupé.
Ça me rassure.
Et c'est heureux parce que imaginez Noah, Dieudonné et tous les autres qui repartent au Cameroun ou ailleurs, et qu'est-ce qu'on deviendrait?
Et qu'en dit Madame Cameroun, vous n'êtes peut-être pas d'accord.
Mais non, mais attendez, mais il faut pas blaguer avec ça, Marquis. Vous vous rendez compte de ce que deviendrait la France? Non, mais moi, qui paierait nos retraites? Non, mais moi, ça m'épouvante, une hypothèse pareille. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire.
Et qui paierait l'hospitalisation de Bouteflika, surtout.
De Bouteflika, oui. Pour qu'il puisse remercier le peuple algérien.
On va enfin Bouteflika.
Bon, vous êtes envoyé. Vous pouvez sortir, merci. Bien, on va écouter un peu de musique pour se laver l'intérieur de la tête, parce que là, quand même, on a passé un moment un peu difficile.
On va en venir à des choses
saintes. Et puis, ensuite, on va en venir à des choses saintes et sérieuses. Alors, je vous expliquerai après comment ça marche.
Nos traditions anciennes, les débats, nos
Opéra Argoache, c'est la chorale de Riomont, ça?
C'est une des chorales de Riomont, parce qu'on a un groupe scout très important, et on a un groupe très important à l'abbaye de Foncombeau.
Je voudrais quand même avant vous poser une question. Est-ce que vous espérez faire fortune avec ça?
Oui, parce qu'on touche les cœurs. Et en fait, ce sont les cœurs qui sont riches.
Avec vos cœurs?
Oui. Oui.
Bon, si c'est une question de cœur, c'est...
Oui, absolument.
Si c'est une question...
Ce soir, il y a quelqu'un qui a du cœur qui m'entend.
Ah non, mais il n'est pas obligé d'acheter le disque.
Non, il n'est pas obligé d'acheter le disque. On lui imposera.
Bon, alors voilà ce que j'explique aux auditeurs. Bah, bien sûr. Bah.
Ah ben, quelquefois, il y a des gens qui ne comprennent pas quand
on... Ah ben ça, alors, ils ne sont pas dignes d'écouter Radio Courtoisie. J'explique en deux mots de quoi il s'agit. Ce soir, nous avons décidé de faire ce que nous avons appelé « Tenez votre promesse » ou « Faites votre promesse » puisque Riomont, c'est quand même des scouts. L'essentiel, la base de Riomont, la racine, le noyau, c'est le scoutisme. Et la promesse pour les scouts, ça veut dire quelque chose. Et en fait, il s'agit de faire ce qu'on appelle entre nous un Riomonton, c'est-à-dire Riomont, à la surprise générale, ne réalise pas les bénéfices qu'ils espéraient, parce que personne ne veut acheter les enfants de Riomont, pourtant ils sont en parfait état en sortant, ils sont bien élevés, bien éduqués et tout, mais il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de marché. Donc ils ont du mal à rentabiliser.
Mais si, il y a un marché pour les mariages, parce que quand on
marie
sa fille à un garçon de Riomont, généralement... on est fiers.
On va en parler tout à l'heure d'ailleurs, puisqu'on a l'épouse d'un garçon de Riomont qui est venue nous dire, qui nous dira ce qu'elle en pense. Mais donc l'idée, c'est quand même d'aider au financement de cette œuvre magnifique que j'aime profondément depuis des années. Et je me suis dit, voilà, on va faire à la veille de Noël. Souvent, c'est une période pendant laquelle nos amis se disent à qui est-ce qu'on pourrait envoyer de l'argent, à qui est-ce qu'on pourrait faire un cadeau de Noël, à qui on pourrait manifester notre sympathie, notre amitié, notre soutien par un don.
Où ça crèche Riomont pour commencer? Il y a peut-être un ou deux auditeurs qui...
Mais on va le dire, ça fait partie du discours.
Je n'aimais pas ma formule où ça crèche.
Ah oui, c'est amusant, oui, pour Noël, oui, d'accord, c'était très très...
Bûcher,
oui. Bon. C'est pas un âne. Hein? Bon, et alors donc, j'ai dit au Père Argoache, mais venez, vous allez nous raconter ce qui est Riomont, vous allez faire venir des témoins, des élèves, des gens qui participent à la vie de Riomont. Et on va demander aux auditeurs pendant ce temps-là de faire exactement comme ça se passe dans une émission de télévision dont je ne dirai pas le nom, qui s'appelle le Téléthon, qui vous appelez le numéro de Radio Courtoisie, qui est 01 46 51 00 86, c'est ça?
5 85.
J'étais sûr que j'allais me tromper de toute façon. 01 46 51 00 85. Vous appelez, vous dites... Pourquoi vous voyez comme ça marqué?
J'étais sûr.
Bah oui, moi aussi, bien sûr, c'est obligé. Quand on est débile, c'est...
Le diable est aux commandes, vous nous avez dit tout
voilà,
à l'heure.
Voilà, exactement. Et vous dites, je m'engage, ça n'engage que vous, bien entendu, je m'engage à envoyer 1 million d'euros, 1 milliard d'euros, 1 000 euros, 100 euros, 50 euros, 10 euros, enfin, ce que vous voulez. Hein. Enfin, il faut envoyer des sous, quoi. En gros, c'est ça. Et vous appelez simplement en disant ça. Alors, on va vous dire, est-ce que vous souhaitez laisser un nom, un numéro de téléphone? C'est pas du tout pour vous faire chanter, c'est tout simplement pour avoir un moyen après de vous rappeler en vous disant, dites donc, vous avez promis 50 euros, on les attend toujours. En gros, c'est ça. Donc, soyez gentils, appelez-nous pour dire, bon, je participe à... Je fais ma promesse, et ma promesse, c'est de vous aider à faire vivre Riomont. Ça va dans une direction très précise. Je le dis parce que souvent on reçoit le Père Argoache et tantôt c'est le village du Gerveur le Christ. Tantôt c'est l'église de Riomont. On va en parler tout à l'heure avec son architecte. Et tantôt c'est dans le nord. Oui, on va le dire. Alors allez-y, dites-le.
Dites l'adresse. Vas-y, allez-y.
Tant qu'on lui aura pas laissé parler, il sera à l'heure.
Mort de les basses.
Alors Goffman, allez-y.
Bon, ce que j'allais dire. Riomont.net, j'ajoute. Une manie à moi.
Bon, Riomont, c'est à Liévin. Jolie petite bourgade du nord. Sympathique.
France.
Village de mineurs, de corons. Comment ça s'appelle les trucs là,
Terry.
De Terry, Thierry. On dit comme on veut, mais enfin, on comprend bien.
Les ch'timis téléphonent en masse.
Et bon, et c'est quelque chose de magnifique. Et c'est un... Non, ce qui est extraordinaire, au monde, si vous voulez, c'est que c'est le village de Blanche-Neige, parce que c'est exactement un village de Blanche-Neige, construit comme un, on imagine, un village de, avec des grosses pierres, des toits de chaume ou des toits de... Et c'est un endroit fabuleux, avec des enfants adorables, des curés en soutane, des prêtres en coule. Bon, et puis c'est au milieu des terrils, au milieu des corons, dans un décor qui est pas forcément très très...
Un décor qui est dur.
Qui est dur, voilà.
Ah ouais.
Et c'est beau. Voilà, c'est beau parce qu'on sent que les enfants sont heureux, etc. Voilà, et il faut y aller.
Et puis quand si on y va, on est très heureux aussi.
On pleure à chaque fois comme des imbéciles qu'on fait d'ailleurs. Parce que c'est vraiment très beau. Alors, si vous voulez aider cette œuvre à vivre, à survivre, je vais donner la parole au père Ardoise, qui est le directeur du village. Il va vous expliquer quel est le projet et pourquoi ils ont besoin d'argent. Vous téléphonez 01 46 51 00 85.
Vous voyez quand vous voulez.
Ben oui, il faut que je me repose, c'est tout. Avant, il faut que je prenne mon élan. Et vous dites, voilà, je vais envoyer 10 euros, 5 euros, 20 euros, 50 euros, ce que vous pouvez, ce que vous avez envie d'envoyer, et appelez systématiquement, et puis on vous dira, à mesure que vous appellerez, où on en est. Alors, soyez gentils, ne me laissez pas me couvrir de ridicule qu'on ne part pas ce soir avec 25 euros de promesses, parce que ma concurrence avec TF1, ça serait...
Je vais donner un meilleur chiffre, moi. Et souhaiter qu'Arnaud Lagardère, le propriétaire, entre autres, de Paris Match, soit à l'écoute, parce que il a donné à Yannick Noah, pour ses bonnes œuvres, la somme de 150 000 euros, ce qui devrait le consoler d'avoir été censuré, et le dissuader de retourner au Cameroun.
Oui, ça serait... Donc, si vous voulez égaler Monsieur Lagardère, appelez. 150 000 euros, c'est le chiffre de base. Mais si vous n'avez que 100 euros, même 50, même 15, c'est très bien aussi. Alors, mon père, dites-nous, s'il vous plaît, dites à nos auditeurs nouveaux, anciens et même archaïques, ce que c'est que Ryomo.
Attendez, je peux vous demander, un auditeur...
C'est bien de m'avoir cassé mon cou. Très bien, merci.
Non, excusez-moi, mais c'est pas possible, parce qu'après, on va oublier. Il y a déjà un chèque qui est arrivé.
À quel ordre ?
Qui est arrivé, et on demande à quel ordre faut-il établir le chèque, donc, à Association...
Notre-Dame de Ryomont.
Vous faites un chèque à Notre-Dame, là au moins vous êtes sûr que vous allez toucher les dividendes.
Et on le confie au Père Noël, alors, si j'ai bien suivi.
Non, à la poste. Mettez-le à la poste plutôt.
À quelle adresse sans indiscrétion ?
Village d'enfants de Ryomont, boîte postale 28, 62 801, Liévin, LIEVIN, CEDEX.
Chez dans le Nord.
Vous répétez, s'il vous plaît.
Village d'enfants de Ryomont, R-I-A-U-M-O-N-T, boîte postale 28, 62 801, Liévin, CEDEX.
Ryomont.net.
Ça, c'est... Mais on peut pas faire de dons par Internet, donc si vous voulez voir des images de Ryomont, c'est Ryomont. Alors, je reviens à ma question. Merci, Victoria, de m'avoir interrompu.
Au revoir, Serge.
C'était fondé et mérité. Non, mais vous pouvez rester. Hein.
Vous ne vous barrez pas au Cameroun, quand même.
Je vais répondre au téléphone.
Non, ça va, parce que j'ai besoin de vous pour lire les messages. Alors, mon père, vous avez la parole, maintenant.
Ouais, d'abord, Ryomont, c'est une aventure, c'est un petit miracle. C'est un prêtre qui a fondé Ryomont, le père Revé. Il a commencé avec un petit chalet en bois en 1956-57 à Lens. Et quand Patrick parlait de crèche, c'était très adapté parce que, au fond, le premier garçon, il l'a mis dans un hamac. C'est un enfant qui n'avait plus de parents. Et il y a eu une réunion de prêtres un soir et personne ne prenait cet enfant. Et après une minute de réflexion, le père Revet a levé la main, ce qui a engagé toute l'aventure de Ryomont. Et vraiment, ce petit chalet en bois, on l'a reconstruit après à Ryomont. Et c'est vraiment la crèche, la vraie crèche de Ryomont. Et le hamac, c'est le symbole du camp aussi, c'est le symbole de l'aventure. Alors, il y a eu beaucoup d'aventures à Lens, bien sûr. Et puis le père Revet, qui s'occupait des collèges, qui était aumônier de collège, il s'occupait des gosses, des corons, des cités, en même temps que des scouts, jusqu'au jour où tout a brûlé. Il y a eu un incendie terrible qui a ravagé le chalet. Et quand on parle de Notre-Dame de Riémont, c'est la Vierge qui est sortie de l'incendie et qui est maintenant comme une Notre-Dame des Mines, qui est une Vierge noire, et qui est cette Vierge qui nous protège depuis 1960. Le jour où le père Revet est arrivé sur cette colline qui appartenait au Houillères, il a dit ici on fera tel bâtiment, ici on fera le dortoir des enfants. Et il n'y avait que des trous d'obus, des tranchées, et puis il disait démarre avec des milliers de moustiques. Et c'est là-dessus qu'il a commencé.
Il faut dire que la colline de Riémont, c'est un des hauts lieux de la guerre de 14-18. Oui.
D'abord, c'est un village gaulois, et on en a la preuve, puisqu'il y a des fouilles très importantes qui sont effectuées actuellement tout près de Riémont. C'est un village aussi, bien sûr, romain, mérovingien. Et puis, c'est un champ de bataille. Un champ de bataille terrible de la guerre 14-18. C'était la position allemande qui tirait sur Lorette et Vimy. Et donc, quand nous sommes arrivés, eh bien, il y avait des centaines de grenades, d'obus. Il a fallu déminer avant de construire notre village.
Qu'est-ce que ça veut dire, Riémont? Vous vous êtes posé la question?
Oui, c'est en fait Aureus Mons, qui est devenu Réolte-Mont, et qui veut dire le Mont d'Or. Et c'est vrai que c'est très symbolique de Riémont, et j'aime beaucoup ce mot, Aureus Mons, le Mont d'Or, parce que c'est l'or de la foi. Et c'est vrai qu'au soleil couchant, quand on arrive de certaines directions, la colline est toute dorée.
Alors il faut le décrire un peu, ce village, parce que je dis que c'était un village de Blanche-Neige. C'est vrai que quand on arrive, il y a cette... D'abord, on est... dans une ville de corons, hein. Bon, y a des petits pavillons, oui, et des choses. C'est pas vilain, mais bon, c'est pas. Mm. Et puis il y a un petit chemin comme ça qui passe sous une poterne médiévale.
C'est ça, des grandes tours avec un grand porche médiéval. On s'attend à ce qu'il y ait une herse qui tombe. Ensuite, si on arrive le soir, c'est très beau parce qu'on voit tout de suite la Vierge en haut du chemin qui est éclairée de façon automatique. Déjà, la Vierge vous accueille. Et ensuite, on rentre dans
grand parc sur une colline.
C'est un petit royaume, on pourrait dire presque une petite principauté, parce que c'est homogène, si vous voulez. C'est dans les bois. Et c'est en fait un des derniers lambeaux de la forêt à Trébat. Donc c'est très très... le père Revet, chaque fois on lui disait, mais on va couper des arbres, les arbres sont dangereux. Et il disait, mais alors ça sera plus un village dans les bois. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup d'architectes ont été inquiets pour nos constructions, mais il se trouve que les racines des arbres sont très 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 profondes. Il y a beaucoup d'eau sur cette colline puisqu'il y a des sources, et donc les arbres, malgré toutes les tempêtes, ont tenu. Et donc, comme Riémont doit tenir, c'est aussi un des symboles. L'arbre est un symbole fort dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et il faut pousser des racines profondément pour tenir.
Alors on monte, on passe sous la... il y a donc une route goudronnée, une petite route, un chemin goudronné qui monte, qui passe sous la poterne, et puis on arrive sur une espèce de place.
Alors avant, il y a un grand local scout qui est local Louveteau, oui, maintenant, avec une croix potentielle en pierre qui est tapissée sur le mur. Vous montez et vous arrivez à Godefroid-Bouillon. Alors ça, c'est un bâtiment énorme qui est très joli, avec une cheminée, avec des grandes salles, avec le dortoir, avec bien sûr un certain nombre d'ateliers, comme l'atelier menuiserie. Et ça ressemble à une colonie savoyarde, avec un immense balcon, ce qui fait que les enfants, d'un côté, regardent, ils sont dans les arbres, ils regardent vers ce qu'on appelle le petit château fort, et de l'autre côté, ils sont devant la ferme. Et ils voient les animaux, donc, dans la ferme, et c'est très très agréable pour ces enfants.
Oui, derrière, il y a une ferme.
Il y a une ferme.
Et puis, il y a cette... il faut imaginer, c'est en pierre apparente.
Voilà. Alors, c'est du roman contemporain, oui, c'est-à-dire qu'on a été les premiers dans le Nord, parce que vous savez que c'est la brique, on a été les premiers à ramasser les pavés, car les pavés étaient jetés sur les décharges. Par millions, par milliards, je dirais, on a jeté les pavés, parce qu'on dépavait les routes, on goudronnait. Et le père Revet, moi, quand j'étais jeune éducateur, m'envoyait avec une camionnette, il me disait, tu sais, j'ai remarqué une bordure de trottoir à tel endroit, j'ai remarqué 15 pavés à tel endroit, alors tu vas aller les chercher. Ah, vous imaginez, ce qu'ont pris les voitures au départ, on n'avait pas de 4x4, après on a eu des vieux Land Rover, on a eu des camions, etc.
Les organisateurs de Paris-Roubaix, la course cycliste, suent sang et eau tous les ans pour trouver encore quelques sections pavées sur les routes du Nord.
Et alors, quand je suis arrivé comme jeune éducateur, à 21 ans, en avril 68, pendant tout le mois de mai 1968, j'ai fait du pavé. Pendant que certains faisaient des barricades à Paris, ouais. Nous, on faisait du pavé à Riomont et on faisait du porphyre, du grès d'Artois, du granit. Et le père Revé me disait, mais c'est le béaba à Riomont, si tu veux être éducateur, il faut que tu connaisses les pierres. Alors, apprends à connaître les pierres et après, on verra. Alors, j'ai commencé, c'était la première chose, de connaître les pierres pour pouvoir les disposer, parce qu'après, les maçons, nos maçons, eh bien, les utilisent un petit peu comme des mosaïques, c'est-à-dire il y a des couleurs de pierre différentes et il les place. Il y a toute une sorte de génie du maçon de composition. Alors on verra après avec Pierre Arnaud la construction de cette très 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 grande église. Mais il faut savoir que on en a vraiment bavé, Serge, parce que c'était quand même très très dur de faire ces tranchées, de faire le ferraillage, de faire le béton. Et il y avait une ambiance formidable. Les garçons participaient aux constructions. En même temps qu'ils allaient à l'école à l'extérieur.
Ça aussi, c'est un principe de Riomont, c'est-à-dire que les garçons sont, ils sont nourris, logés, blanchis, éduqués, instruits, mais ils doivent participer à la vie du camp. C'est, ils sont pas en villégiature, quoi. Il faut qu'ils participent à la cuisine, au ménage, à la lessive, à la vaisselle, à la construction des locaux.
Absolument. Alors, comme on est imprégné de scoutisme, il y a ce qu'on appelle les escouades, c'est-à-dire qu'il y a un grand qui s'occupe d'une équipe, comme une patrouille. C'est exactement comme une patrouille. Mercredi après-midi, par exemple, les escouades vont un petit peu partout dans Riomont et on leur demande un service pendant l'après-midi. Après, ils auront sport, après ils iront à la piscine, mais tous les mercredis il y a un chantier. On travaillait beaucoup plus autrefois, parce que d'abord il y avait beaucoup plus de garçons, puis si on en avait 180, il faudrait parler.
Puis c'était autorisé.
Et puis il faudrait évoquer combien on nous a poussé à construire. Les juges pour enfants trouvaient que Riomont était trop petit. Donc, quand le père Revé faisait un foyer en pierre qui n'avait pas de permis de construire, les juges pour enfants disaient « Mais père Revé, heureusement que vous avez construit sans permis, autrement on n'aurait jamais fait ce foyer, et maintenant on le loue et on va mettre 45 enfants de plus. » Et c'est comme ça qu'on a été appuyé. C'était le début des maisons d'enfants. Il y avait aussi ce côté pionnier des fondateurs de maisons d'enfants. Qu'on soit prêtre ou laïque, d'ailleurs, il y avait un enthousiasme extraordinaire et souvent, ça partait bien sûr du scoutisme, de chefs scouts qui donnaient leur vie pour s'occuper. Au début, il n'y avait pas de déontologie du métier d'éducateur, ça n'existait pas. On s'occupait d'enfants par dévouement et par compétence, parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui n'étaient pas diplômés n'avaient pas de compétences. Ils avaient des compétences, ça c'est sûr.
Alors on va recevoir tout à l'heure des jeunes de Riomont, enfin des garçons de Riomont qui ont grandi, qui ont fait des carrières, qui ont fait des foyers, je voudrais qu'on continue la visite. Donc quand on est...
Alors on arrive après la ferme, à la maison, ce que vous avez appelé la maison Blanche-Neige, qui est une sorte de maison mystérieuse. En fait, père Revé a donné un dessin de la maison Blanche-Neige, et on a reproduit non seulement la maison de Blanche-Neige, où il y a alors beaucoup de trésors historiques que le père Revé montrait aux enfants, parce qu'il voulait faire de l'histoire avec des objets pour raconter l'histoire des objets. Moi, j'ai assisté à des veillées avec le père Revé. Moi, il sortait un casque, il sortait une armure, et alors il avait par exemple plein de petits laotiens qui étaient là, tout minuscules, et lui, ce géant en soutane avec sa bonté et sa chevelure blanche, eh bien il racontait, et moi j'étais comme un gosse, j'avais pourtant 22 ans, 25 ans, 30 ans, et j'étais assis comme les gosses et je buvais les paroles du père Revé tellement il savait évoquer l'histoire de France.
C'était comment un collectionneur qui écumait les puces, les
absolument, les brocantes. Absolument, et il était très connu au marché aux puces. Il est devenu d'ailleurs à un moment pratiquement l'aumônier du marché aux puces de la porte de Clignancourt, et tous les marchands le connaissaient. Et quand le père Revé est mort, quand j'ai annoncé sa mort, tous les gens pleuraient au marché aux puces, parce qu'il a, bien sûr, il a fait un bien énorme sur le plan religieux et sur le plan spirituel.
Il avait ce bureau qui est le vôtre maintenant, qui était extraordinaire, qui était une espèce d'endroit mythique avec il y avait une une cuirasse. Le décor, c'est du bois, des fourrures, des peaux d'ours. Il y a un ours
empaillé. Complet.
Il y a et puis des vitrines avec des objets indiens, des objets de toute origine, des casques de chevaliers, des épées, des cimetières,
voilà. Cette maison fait rêver les enfants. Ah oui, et ensuite, il y a la salle d'honneur qui est derrière, où nous avons une cheminée, mais alors immense, où on peut faire cuire un bœuf, et où on fait, bien sûr, des conférences, où il y a des vins d'honneur, et où il y a des visites. Alors, on continue la visite à travers ce petit bois, qui est charmant.
Il y a un mot, si vous permettez. C'est le seul endroit au monde où j'ai vu se concrétiser l'imagination de Pierre Joubert, qui est un ami du village, qu'un ami, un bienfaiteur. Mais un dessin, c'est un dessin. Et là, on entre dans les dessins de Joubert, aussi bien parce qu'on voit les gosses qui sont des enfants sortis des dessins de Joubert complètement, mais aussi bien à cause par le décor, qui est exactement le décor mythique de la chevalerie, de l'aventure, du rêve.
Pierre Joubert aimait beaucoup venir à Riaumont, bien sûr, parce que c'était le village du scoutisme, la cité du scoutisme, et Dieu sait s'il a dessiné et peint pour le scoutisme, et il a donc fait des fresques sur les murs de cette maison Blanche-Neige.
Qui lui donne une valeur
absolue. Et il a fait toute une cavalcade de petits chevaux en bois dans le bâtiment dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle Godefroy de Bouillon, puisque Godefroy de Bouillon est venu à Lens, c'est pas pour rien, il y a toute une connexion avec l'histoire. Et donc, après la maison Blanche-Neige, on arrive bien sûr sur cette chapelle, qui a une première pierre marquée 1960. Il a commencé par mettre la première pierre de cette chapelle parce que Dieu premier servi. Elle a été faite pour 30 ou 40 garçons. On l'a agrandie 4 fois. Mystérieusement, elle a pris la forme d'une croix, comme nous aimons beaucoup le dire. Et maintenant, cette chapelle est trop petite. Mais là encore,
elle est belle, cette chapelle.
Par exemple, les vitraux sont faits en tessons de bouteilles colorés, et ils sont disposés. À certains moments de l'année, les rayons de lumière partent de ces tessons de bouteilles et vont frapper en plein cœur l'autel. Quand vous célébrez la messe à certains moments de l'année, c'est très très émouvant de voir l'autel qui est illuminé. Par la direction des rayons.
C'est-à-dire que j'ai assisté à quelques messes à la chapelle de Riaumont et j'ai assisté à peu de messes avec une telle intensité, mais instantité, je dirais... enfantine, enfin,
il est sûr qu'il se passe quelque chose dans cette chapelle qui n'est pas du tout magique, qui est vraiment spirituelle.
Parce que vous avez fait la crèche cette année.
Nous avons fait la crèche cette année.
Alors, il faut voir la crèche, parce que ceux qui peuvent aller à Riaumont,
qui est grande, qui est très grande,
qui est immense. Avec, il y a des rivières, il y a des. Oui, enfin, oui. C'est vraiment la crèche rêvée. On a envie d'avoir ça.
Il y a énormément de personnages. Il y a presque des centaines de brebis. Il y a des dizaines de chameaux. La crèche est très très importante, c'est toujours pareil, c'est aussi pour évoquer le mystère de la nativité, pour que les enfants soient frappés par le mystère de la nativité et cette grâce de cette renaissance religieuse de tout leur être au moment de Noël. Le scoutisme est une route de sainteté et les scouts s'attachent particulièrement, on le sait, à faire la crèche.
Vous parliez de Joubert il y a quelques instants, avant qu'on ne le perde de vue complètement, je voudrais signaler qu'il a également illustré par exemple un livre sur le père Revet dont vous parliez également il y a quelques instants, Riaumont, citadelle de l'espérance. Je voudrais en particulier le dire à ceux, et il y en a quelques-uns qui n'aiment pas envoyer de l'argent pour rien, je voudrais leur signaler que ce livre et puis des cartes de vœux, des vidéos qui montrent en couleur ce que vous décriviez à l'instant, on peut se les procurer pour un peu d'argent à une association, La Porterie,
absolument,
qui est à la même adresse que l'association Notre-Dame de Riaumont, à savoir boîte postale 28 62 801 Liévin-Cedex, et qui possède son propre site internet, à savoir laporterie.com.
C'est vrai. Alors, on a une première évaluation de promesse de don, c'est 2000 euros, donc voilà, si j'ose dire, d'une façon pas trop grossière, la pompe est amorcée. Ne la laissez pas se désamorcer, merci.
Mais Lagardère, téléphone.
Je voudrais tout à l'heure parler un petit peu de nos problèmes. Je voudrais juste terminer la visite parce que
oui,
je pense que.
Il faut qu'on continue la visite.
Victoria veut parler.
Non, vas-y, c'est Victoria. Parce que je voulais enchaîner sur ce que disait Serge. Un auditeur demande si je fais un don, aurais-je un reçu fiscal?
Oui, vous aurez un reçu fiscal de l'association Notre-Dame de Riomont. Il n'y a pas de problème. Il vous sera envoyé d'ailleurs très rapidement.
Moi, le reçu fiscal permet de, expliquez-le, pour
permet de défalquer pour les impôts.
Le 60% de la somme versée. Moi, si on m'envoie un don, je fais aussi un reçu fiscal, mais je dois vous dire qu'il n'a absolument aucune valeur. Il n'est pas reconnu. Enfin, vous aurez un reçu, quoi. Voilà. Il faut quand même dire les choses. Bon, hein, il n'y a pas que vous qui faites des reçus fiscaux.
Après la chapelle, eh bien, il y a le monastère. Alors quand le père Revé nous a dit on va fabriquer un monastère, ben, moi j'étais le premier, j'étais un peu seul, et quelqu'un lui a dit mais enfin vous n'avez pas de moine à mettre dedans, pourquoi est-ce que vous voulez construire un monastère? Alors il a demandé conseil, en particulier à ce moment-là au père abbé de Foncombeau
hein.
Qui était don roi, qui était vivant à l'époque, qui était un moine très saint, qui lui a dit mais si, faites, il y a tout un projet d'institut religieux, bien sûr c'est en pointillé, mais vous avez la foi, et le bon Dieu vous enverra les frères qu'il vous faut, et le père Revé a commencé à construire donc un monastère, et il allait chercher des vieilles pierres. En particulier, on a toute une partie d'un cloître qui vient de Normandie et qui a été récupéré à une vente aux enchères, et ce cloître était dans une boîte de nuit. La boîte de nuit a fermé, il y a eu une vente aux enchères, et on a récupéré ce cloître du XIVe siècle il venait de la grande abbaye de Fécamp. Il y avait plusieurs cloîtres dans cette grande abbaye de Fécamp, qui était détruite aussi en partie à la Révolution, et on a récupéré ce cloître qui a été remonté pierre par pierre. Il y a une cheminée du XVIe, il y a des ensembles qui sont intégrés à la maçonnerie, et sans grue. Quelquefois, je me dis, on a construit ce monastère au seau et à la corde, à la poulie. Faut voir, parce que bien sûr, il y a de la pierre, mais il y a aussi du béton entre les pierres. Il faut bien grandir le plus haut possible. Et la croix, je pourrais peut-être laisser la parole à Pierre Arnaud, parce que la croix qui domine le monastère, c'est lui qui l'a trouvée sur une décharge. Et en plus, la providence a fait que, au moment où à la seconde précise, on avait besoin de quelque chose, le bon Dieu nous le donnait.
Alors ça, on va en parler dans quelques minutes, parce que là, il y a une dimension dans l'histoire de Riomont qui est littéralement merveilleuse, mais au sens le plus fort
émouvant,
du terme.
C'est très émouvant.
C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un besoin urgent, il se passe d'une façon merveilleuse, miraculeuse, disons le mot. Vous trouvez
le
frigo, c'est superbe. Ça. Bon, et puis
je me souviens, le père Revé un jour, le soir, me dit, écoute, Jean-Paul, on n'a plus de pierre. On ne peut plus construire, il n'y a plus de pierre. Et on avait un mur de pierre, de clôture, mais qui servait pratiquement à rien, parce qu'il y avait une autre clôture derrière. Et ce mur s'est écroulé la nuit, et au matin, le maçon est parti, et il avait des centaines de pavés qui étaient tombés, parce que bien sûr, il y a les mines en dessous, il y a des souterrains allemands. Ce mur ne demandait qu'à tomber, il est tombé la nuit précise où il n'y avait plus de pierre. Enfin, c'était incroyable, sur 365 jours, il est tombé le jour où on en avait besoin. Donc c'est vrai qu'il y a eu des coups de providence formidables. Alors après, le monastère, qui a une très belle salle de chapitre, et les cellules qu'on a pu construire, eh bien, on arrive vers le petit chalet en bois dont je parlais tout à l'heure, qui est le petit chalet, la crèche. Et puis après, on arrive à l'école Saint-Jean-Bosco.
Et tout ça, il faut rappeler que ça se passe dans un grand parc. Hein. C'est un parc arboré, comme on dit maintenant.
Le père connaissait beaucoup les arbres et m'enseignait l'étude de la nature. Il connaissait exactement toutes les plantes, et donc c'est lui qui faisait les plantations. Et
alors donc ce bâtiment.
Alors c'était le foyer des jeunes travailleurs autrefois, quand on nous faisait confiance, quand on nous a poussés, on avait 45 jeunes travailleurs qui étaient là et donc qui allaient dans des entreprises de la région. On avait tout un réseau de chefs d'entreprise et ils étaient apprentis et ils rentraient là le soir. Il y avait trois groupes. le groupe Saint-Exupéry, le groupe Maréchal de Lattes de Tassigny, le groupe Maréchal Leclerc. Mmh. C'est là les trois groupes, toujours aussi avec des noms. Il y avait un groupe Saint-Exupéry, il y avait les Duc Aiclin, il y avait les Bayard. Vous voyez, il y avait toujours des noms pour essayer de donner un idéal à ces enfants. Et bien sûr, tous ces héros étaient évoqués le soir à la veillée. Alors après, ce foyer de jeunes travailleurs est devenu une école par la force des choses après. Et actuellement, donc il y a 35 enfants qui vont à l'école là, 6e, 5e, 4e, 3e. On parlera tout à l'heure de l'école technique. Et puis, on descend. Alors là, il y a le terrain des Feux de la Saint-Jean, derrière,
C'est un endroit immense.
C'est en forêt, c'est très beau.
Vous faites les fameux spectacles de la Saint-Jean.
Les grands
sons de lumière. Quelque chose d'incroyable. Alors là, je donne la parole au Marquis, parce qu'il les a vus comme moi.
La France des cathédrales, c'était quelque chose d'extraordinaire.
C'est vraiment...
J'en ai vu, sur la Grande Muraille de Chine, Turandot, etc., de la gnognotte à côté. Ouais. Vraiment.
C'était vraiment magnifique, moi. Je me souviens de...
Mais attendez, le frisson dans le dos, là.
Ah oui, oui, plus que ça. C'est quelque chose d'incroyable.
Il y a une vidéo.
Oui, il y a des vidéos pour chaque son et lumière. Et donc le dernier, c'était le Mont Saint-Michel qu'on a fait par deux fois. Donc une maquette du Mont Saint-Michel.
Magnifique, le Mont Saint-Michel.
Presque 30 mètres de haut, sur 60 de large. Et Pierre Arnaud Ransard parlera tout à l'heure.
On est dans le surnaturel.
Et on a fait passer il a fait passer Pierre Arnaud le Mont Saint-Michel du roman au gothique pendant le spectacle, ce qui était quand même quelque chose de fabuleux.
Stupéfiant. Moi, j'ai le souvenir de ça. Ah oui, c'était... Alors, expliquez-nous, racontez-nous comment ça...
Absolument passionnant.
Parce que vous avez construit le Mont-Saint-Michel, carrément, quoi. C'est-à-dire, ça faisait combien de mètres d'eau, vous nous avez dit ?
Une trentaine de mètres d'eau.
30 mètres d'eau. C'est... on était abasourdis.
Avec toute évolution, c'est-à-dire qu'au début du spectacle, c'est une colline, mm-hmm. verte, avec une petite chapelle en haut. Et progressivement, la chapelle se transforme en monastère roman. Puis le chœur gothique... Puis après, on lance la flèche et on rehausse le clocher d'abord et on lance la flèche. Alors, je vais vous passer les détails, mais c'est délicieux. On lance la flèche avec une antenne de l'armée qui fait 30 mètres, qui est avalée dans la hauteur. Ce sont des prouesses techniques et c'est un événement excessivement passionnant pour les jeunes et les adultes qui ont participé à ce... Pour faire marcher tout le... Pour faire changer le décor... il y avait en permanence 25 personnes sur le mont.
Alors, le monsieur que vous entendez parler, c'est un architecte. On parlera tout à l'heure de l'église. Je disais la cathédrale, mais c'est un peu ça. Et en tant qu'architecte, c'est vous qui avez organisé, avec les frères de Riomont et avec l'exécution en fait par les garçons de Riomont, qui avait organisé ce spectacle. Et je veux dire que vous en parlez en technicien, c'est-à-dire vous voyez l'arrière des coulisses. Mais nous qui avons vu avec le marquis et puis quelques milliers d'autres personnes, le spectacle lui-même, c'était absolument ahurissant. Parce que quand vous racontez l'évolution du mont, on la voit, mais pendant ce temps-là, en bas, il se passe toute une dramaturgie qui raconte la traversée des pèlerins. Et alors là, c'est ce qui était stupéfiant, c'était de voir. On se dit, c'est pas possible. Il y a des dizaines de gosses dans tous les sens. Et on voit arriver un type qui conduit des oies. Il y en a un autre qui a des moutons, des chèvres. Il y a des vaches. On se dit, tout ça va finir dans un capharnaüm épouvantable. Tout ça va s'entrebouffer, se piétiner sauvagement et tout. Pas du tout. Et on sent que l'archange qui est là, qui est au-dessus, qui dit, bon, les enfants, arrangez-vous. Et je me souviens d'un spectacle. Je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre. Où, au début du spectacle, il a commencé à pleuvioter. Et au bout de 10 minutes de spectacle, l'horreur totale. Les grandes eaux du ciel nous sont tombées. C'est le premier mont, voilà. Mais c'était une pluie comme on n'en imagine même pas, la mousson...
Mais parce que contre vents et marées, Saint-Michel rempart de la chrétienté. Et on m'a beaucoup reproché ce titre en disant, mais écoutez, Père Arguache, c'était dans le titre, pourquoi vous attendiez à voir du soleil, enfin du soleil en soirée, plutôt du beau temps, parce que des étoiles, et c'est sûr qu'il a plu pendant tout le spectacle.
Il y a même une marée tous les jours au Mont-Saint-Michel.
Oui, mais elle ne vient pas d'en haut. Et là, ce qui était stupéfiant, c'est qu'au bout de 10 minutes... les gens complètement détrempés, on les voit se lever, on voit des mères de famille avec leurs enfants qui partent. Et je me disais, c'est pas possible, c'est quelle catastrophe, ils foutent tous le camp, et tout, quelle horreur. Ils partent, et deux minutes après, ils reviennent.
Avec des ponchos.
Avec des ponchos, et avec des sacs poubelles.
Oui, qui servent à faire
merde. Ils avaient collé des sacs poubelles sur leur tête en faisant un trou au fond. Bon, il n'y a qu'à Riomon qu'on voit ça, ils sont restés jusqu'à la fin. Et on se disait, enfin ceux qui savaient comment, ceux qui voyaient ce qui se passait, ou qui avaient un peu d'imagination, il y avait des projecteurs partout, il y avait de l'électricité partout. Et on se disait, autant de flottes sur de l'électricité, ça va provoquer un drame. Enfin, il va y avoir au mieux un court-circuit, et au pire une électrocution générale de 250 personnes. Non, rien du tout, il n'y a pas eu le moindre problème.
Si, il y a eu les canons à fumée qui ont pas fonctionné.
Ouais,
mais
je pas vraiment.
C'est-à-dire
pas
que quand les bateaux arrivent sur de vieux taxis, ces bateaux, on ne devait absolument pas voir qui roulait. On ne le voyait pas d'ailleurs qui roulait parce que les bateaux descendaient jusqu'au sol. Mais il y avait une fumée lourde de environ 80 cm.
Qui représentait la mer.
Et qui, moi j'ai vu une répétition, c'était fabuleux, arrivait sur les remparts du Mont-Saint-Michel et revenait un peu en velouté.
Oui,
un peu comme une vague de ressac. C'était extraordinairement beau à la répétition. Eh bien, à part cela, bon, personne ne l'a su, d'ailleurs.
Non, c'est aucune importance.
On a joué avec les boutons, puis effectivement, Saint-Michel devait sûrement être là pour...
Ce spectacle n'a été donné qu'une fois.
Deux fois,
c'est peut-être dommage, parce qu'il y a des gens dans un bled qui s'appelle le Puy du Fou, qui ont des très gros
rôles,
avec un spectacle comparable.
Oui, mais alors, le Puy du Fou fait plusieurs soirées, mais il y a énormément d'adultes qui joue au Puy du Fou, alors que nous avons 95%, ce sont des enfants. Comment voulez-vous un petit louveteau qui a déjà pas dormi pratiquement la nuit le faire une deuxième fois son rôle? C'est impossible. C'est quelque chose qui peut se dérouler deux fois à un an en plus. On dira qu'on exploite les enfants. Dieu sait s'il y a des gens derrière pour essayer de détruire cette colline. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a une hargne.
Un mauvais vouloir.
Oui, pour détruire Riomon.
Mon père, je vous interromps une seconde pour rappeler que nous faisons une opération, une expérience qui s'appelle Faites votre promesse. On demande aux auditeurs, j'allais dire aux auditeurs qui nous écoutent, mais évidemment c'est ça, quoi, parce que ceux qui ne nous écoutent pas ne sont pas des auditeurs. Quant aux auditeurs qui ne nous écoutent pas, ben, ils ne peuvent pas nous entendre.
Mais ils nous écouteront cette nuit ou demain matin, Serge.
Donc on leur demande de... Oui, mais ils ne pourront pas téléphoner. On leur demande de téléphoner. Mais ça ne fait rien. Si vous ne pouvez pas téléphoner, vengez-vous en envoyant des chèques. Donc vous pouvez téléphoner maintenant en disant « Je fais ma promesse » et ma promesse c'est d'envoyer 10, 15, 20, 500, 1000, 1 milliard d'euros, 150 000 euros comme monsieur. Il a téléphoné Lagardère.
Mais Serge, est-ce que je peux dire...
Hoffmann.
Lagardère n'a toujours pas téléphoné.
Serge, est-ce que je peux dire aussi qu'on peut faire un leg? Parce que ça nous fait avancer quand même. Quand il y a un leg, il y a des gens qui nous écoutent peut-être, qui ont au fond beaucoup d'argent. Cette œuvre, c'est un peu comme l'œuvre des apprentis d'Auteuil. Les apprentis d'Auteuil reçoivent énormément d'argent, énormément de legs. Et alors quelquefois, je dis, mais nous sommes comme les apprentis d'Auteuil.
Vous ah bon? Pas les caleçons du
mais non, mais non, ou... mais oui, parce qu'on en faisait des reliques. Ouais, le père Rottier était un saint, moi je suis pas un saint, et puis je suis pas encore mort. Mais non, c'est pour dire que c'est très important de savoir que en fait c'est vrai, on en parlera tout à l'heure, il nous faut quand même beaucoup d'argent pour en sortir.
Pour sinon, une bonne cause.
Sinon Riomon risque d'être fermé.
C'est surtout de l'argent qui va débloquer un système qui va vous permettre d'avoir de l'argent officiel.
Voilà.
C'est ça qu'il faut expliquer, c'est que on va le dire tout de suite, si vous voulez, mon père. Il ne s'agit pas d'envoyer de l'argent à fond perdu. C'est l'argent que vous enverrez permettra d'aménager des locaux qui vont rendre possible la création d'un centre d'apprentissage, lequel centre d'apprentissage va pouvoir toucher les aides à l'apprentissage, les subventions,
les taxes professionnelles.
Voilà. Donc ce que vous faites, c'est une, en donnant de l'argent, vous amorcez une pompe
pour que l'école soit reconnue.
Reconnue, voilà.
Et elle peut être reconnue que si elle est dans les normes, Serge. Si elle n'est pas dans les normes.
Il faut qu'elle soit dans les normes. Voilà. Alors, on expliquera tout à l'heure le piège qui est tendu par le gouvernement laïque pour qu'il ne peut pas faire autrement que d'exécuter ses propres règles. Donc il dit, si vous êtes dans les normes, on vous donnera les taxes professionnelles. Moyennant quoi, ils ont des exigences telles que c'est pratiquement impossible, sans assistance, sans aide, de se mettre aux normes. Voilà. Vous avez quelque chose à dire, Victoria?
À 19h20, nous disent nos téléphonistes, nous sommes à 4385 euros de promesses.
Il faudra peut-être s'énerver un petit peu, je trouve que ça. Il y a du mou dans la corde à nœuds, comme disait le marin. Mais je remercie tous ceux qui ont fait des promesses, sous réserve qu'ils les tiennent, bien entendu. Et je vous rappelle que, contrairement à ce que dit Pasqua, les promesses n'engagent pas que ceux qui les entendent. Enfin, pas ce soir, en tout cas.
Le spectacle dont on vient de parler longuement, on peut le voir sur vidéo. Il y a également plusieurs DVD qui viennent de paraître. Je répète l'adresse pour ceux qui n'aiment pas envoyer de l'argent contre rien. L'adresse, vous la trouverez sur le site laporterie.com. Vous pouvez demander, je pense, un catalogue de ces cartes postales, de ces cartes de vœux, de ces livres, de ces médailles, de ces vidéos, de ces DVD à l'association La Porterie. BP 28 62 801 Liévin Cedex.
Alors je rappelle pour les promettants, ceux qui ont fait leur promesse, que cette promesse est exécutoire à l'ordre de l'association Notre-Dame de Riaumont. Et là, si vous me permettez de vous le dire, chers auditeurs, la Sainte Vierge vous surveille. Vous avez fait une promesse, c'est elle qui s'occupe du contrôle, hein. Moi, je suis pour rien. Donc, maintenant que vous avez ce qu'il vous reste à faire.
C'est elle qui leur donne l'adresse?
Non, non, je vais la donner. Moi, ben non, parce que elle a pas que ça à faire, quand même. Donc, Notre-Dame de Riaumont, R-I-A-U-M-O-N-T, village d'enfants de Riaumont, boîte postale 28, 62 801 62 801 CEDEX. Vous envoyez votre chèque à cette adresse, à l'ordre de l'association Notre-Dame de Riaumont.
À Liévin.
À Liévin, voilà. Ah oui, j'ai 62 801 Liévin.
Liévin, c'est.
Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on commencera par donner la parole à M. Dransart, qui est l'architecte de l'église, parce que, quand même, nos bons pères de Riaumont, qui sont pas à moitié fous, ils ont, je sais pas combien d'enfants, combien il y en a en ce moment chez vous?
Il y en a 35, mais il y a les 500 scouts, et puis il y a tous les gosses qui viennent dans la semaine.
En général, ça tourne autour de 40 pensionnaires pris en charge totalement, et puis il y a effectivement 500
scouts. Il y a un rayonnement formidable.
Des guides, des scouts.
Dernièrement, il y avait une fête Louveteau qui était fabuleuse, avec des très beaux sketchs il y a quelques jours.
Alors non seulement ils font ça, en plus, ils ont le village
du Gerveur.
Gerveur le Christ, dont on parlera une autre fois. On en dira trois mots, mais comme ça suffisait pas, vous comprenez, et ben ils ont décidé de construire une église. Alors quand je me souviens que le père Jean-Paul m'a dit ça, j'ai dit bon, ben ils vont construire une petite église pour. Eh bien, la petite église, c'est en train de devenir un monument. Enfin, je crois que c'est...
Je voudrais dire un mot avant Pierre Arnaud, c'est que on parlait de cette église, etc. Et on m'avait dit, hein, mais Pierre Arnaud Dransart rêve de construire une église. Il rêve de construire une église. Et donc, et puis il m'a sollicité une ou deux fois. Et puis je lui ai dit, ben voilà, maintenant c'est le moment. Je viens vous chercher. Il faut faire l'église.
Quel est l'architecte qui rêve pas de construire une église? Un architecte qui est sur Terre pour construire au moins une église dans sa vie. Et lui, il a eu la chance de pouvoir le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une petite église de village. C'est un truc incroyable. C'est immense. Et en plus, dans la tradition.
Oui, la tradition romane avec, il l'expliquera. Voilà. Tout à l'heure.
Bien. Donc, je répète, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, si vous voulez faire des dons, vous téléphonez à Radio Courtoisie 01 46 51 00 85. C'est bien, hein?
Très bien. Moi,
j'y arrive quand même. Et vous dites, je fais ma promesse, j'enverrai 10, 15, 20, 50, 100. 100, c'est mieux. 150, c'est encore mieux. 1000, c'est parfait. Et plus, c'est encore plus que parfait. 10 000, c'est... Oui, il n'y a tout de rien. Ou alors, je m'engage à faire un leg. Le jour où le bon Dieu m'invitera chez lui, j'abandonnerai ce que j'ai sur Terre à Riaumont, ce qui me paraît une bonne idée. Comme ça, vous arrivez avec un reçu fiscal qui vaut un petit peu plus que ce que vous pourrez donner N'est-ce pas, Marquis?
Oui, je suis très au courant des
lettres. Voilà, c'est ça, j'ai tout courant. Bon, et vous faites le chèque à l'ordre de l'association Notre-Dame de Riomont, village d'enfants de Riomont, boîte postale 28, 62-801, CEDEX. Et on va écouter un tout petit peu de musique avant de passer à la deuxième partie de l'émission où on invitera des témoins. Bien, nous voilà partis pour cette deuxième étape. Alors, je résume pour les auditeurs qui étaient absents. Nous faisons ce soir une émission spéciale consacrée, pour la quasi-totalité, en tout cas pour l'essentiel, à Riomont, au village d'enfants de Riomont. Cette émission, nous l'appelons « Faites votre promesse », puisqu'elle consiste à téléphoner pour dire « Je promets d'envoyer de l'argent à Riomont, un chèque, un mandat, des bons de la SMEU, des chèques Tintin, enfin ce que vous voulez, 10, 20, 30 euros, 100 euros, 1000 euros, à l'adresse suivante, village d'enfants de Riomont, boîte postale 28, 62 801, CEDEX. Le chèque doit être libellé à Association Notre-Dame de Riomont. Et simplement, vous nous appelez en disant, voilà, je m'engage à envoyer de l'argent. Et nous, nous sommes en train d'expliquer, avec le père Argouache, qui est le directeur du village d'enfants, ce qu'est Riomont, à quoi ça sert, pourquoi ça a été créé, comment ça fonctionne. Et puis, à quel point ces gens sont fous, parce que... Comme je le disais, non content d'avoir fait un village d'enfants.
Pardon. Ils vont construire une église.
Ils sont en train de construire une magnifique église. Et nous avons ici l'architecte de cette église qui s'appelle Pierre-Arnaud Dransart, à qui je vais demander, premièrement, pourquoi vous avez envie de construire une église? Et deuxièmement, pourquoi avez-vous choisi de construire une église totalement... fidèle à la tradition architecturale de l'église et pas faire une espèce de cube ou de je ne sais quoi comme on fait maintenant quand on est architecte et qu'on a une commande de l'évêché. Alors, pourquoi aviez-vous envie de construire une église?
D'abord pour le sens du beau et puis ensuite construire le temple de Dieu pour un architecte ou pour un maître d'œuvre, c'est vraiment le summum de l'expression de son art. Construire le temple de Dieu, c'est-à-dire l'édifice qui va abriter le Saint-Sacrifice de la Messe. Et donc ça répond à un symbole très très fort, et l'âge roman, j'allais dire, le roman, qui était la fleur de la spiritualité chrétienne, avait très très travaillé la question, et là-dessus était bien supérieur à nous. Et j'ai dû faire beaucoup de recherches pour retrouver le symbolisme, pour trouver comment eux avaient travaillé, ce qu'il y avait derrière, etc. Ce que je voudrais, si vous permettez, un petit peu, avant de passer à l'église, c'est un petit peu rebondir sur ce que disait le père Arouache tout à l'heure, puisque je ne fais pas que l'église, je ne construis pas que l'église à Riomont. Je m'occupe également de la remise aux normes des bâtiments. Et ça, j'allais dire, la remise aux normes, c'est le caillou dans le soulier de Riomont. Je crois qu'on pourrait exprimer ça comme ça. Je dirais presque le pavé dans le soulier de Riomont. C'est-à-dire que c'est une espèce de boulet à traîner et qui empêche vraiment... l'extension qui empêche quelque part l'apostolat, qui empêche, je vous donne un exemple, nous avons aujourd'hui, à force du poignet, réussi à mettre aux normes le bâtiment qui reçoit les enfants. C'est essentiel, parce que sinon c'était une fermeture pure et simple de Riomont, de l'œuvre de Riomont était terminée. Nous avons aujourd'hui le bâtiment d'accueil, le bâtiment d'hébergement, qui est pas aux normes, c'est-à-dire que Riomont ne peut plus recevoir de personnes de passage, ne peut plus faire de retraite. Et Riomont est quelque part privé d'un champ d'apostolat. Ce bâtiment, nous sommes en train d'y travailler. Le rez-de-chaussée permet d'accueillir les enfants de Riomont, notamment dans ce qui est la salle à manger, etc. Mais ce bâtiment ne peut plus recevoir personne pour dormir. et ça pose des problèmes d'organisation. À commencer par exemple par les guides. Et pour nous, scouts, c'est quelque chose d'important parce que un local, c'est quelque chose de qui doit être pérenne. C'est-à-dire qu'on doit il y a une tradition qui va passer à travers le local. Vous avez des groupes scouts, vous avez des patrouilles. Ces patrouilles sont héritières de patrouilles qui leur ont été léguées. Il y a tout un sens de la tradition qui est très fort dans le scoutisme. Et là, le sens de la tradition, j'allais dire, est abîmé par simplement le fait de devoir bivouaquer ailleurs ou changer de bâtiment parce que il y a un problème de normes. Pour vous donner un exemple simplement technique auprès de nos auditeurs, il faut savoir que un bâtiment à remettre aux normes, c'est remettre de la détection incendie, c'est refaire le désenfumage, c'est changer toutes les cloisons, parce que la DAS, c'était des bâtiments qui avaient été construits avec un agrément de DAS au début. Les agréments ont complètement changé, et les normes ont complètement changé. Toute cloison intérieure qui sépare un couloir d'une chambre doit être coupe-feu 2 heures. Les portes doivent être pare-flammes 1 demi-heure. Les lambris, le père Revet était... aimait beaucoup les lambris. Les lambris, il y a un caractère naturel. C'est du bois, c'est sympa, c'est chaud, etc. Les lambris sont interdits. L'électricité est à refaire complètement. Ça, ce sont les normes ERP, c'est-à-dire les normes des bâtiments recevant du public. Mais à côté de ça, vient se greffer les normes d'accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et une loi qui vient de passer, notamment en février 2005, nous oblige à rendre nos bâtiments accessibles aux handicapés. C'est-à-dire ascenseur.
Oui, alors, pardon de vous interrompre, mais là on arrive, ce que vous nous expliquez, c'est valable pour Yoron, mais c'est valable pour, en général, pour la vie des Français. Il y a quand même un côté totalement délirant dans cette volonté du pouvoir administratif de tout contrôler, de tout arranger, de tout prévoir, de tout organiser et tout. Alors,
le calibre des bananes.
Depuis le calibre des bananes jusqu'à la date de ponte des œufs. On entre dans un franc délire parce que l'histoire de l'ascenseur, le bâtiment, il fait un rez-de-chaussée et un étage. C'est bien ça, je ne me trompe pas?
Et deux étages.
Et un rez-de-chaussée qui n'est pas tout à fait un rez-de-chaussée puisqu'il a 1,50 m du sol, ce qui pose d'ailleurs des problèmes.
Donc, c'est assez facile pour les directeurs de l'établissement, pour les responsables de l'établissement, de dire le rez-de-chaussée qui est accessible à tous, mais premier et deuxième étage n'est pas accessible aux personnes qui ne sont pas en mesure d'y accéder par leurs propres moyens. Et donc, au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage, les installations sont absolument identiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité vitale pour les handicapés, comme on dit, ce qui est un terme imbécile, puisque c'est exactement le contraire de ce que ça veut dire, pour les infirmes, de monter au premier ou au deuxième, puisque tout ce qu'ils trouveront au premier ou au deuxième, c'est déjà au rez-de-chaussée. Ça, c'est très facile, c'est une décision administrative. L'administration de l'établissement dit, il y a tout au rez-de-chaussée, donc vous n'avez pas besoin de monter au premier, et en quelque sorte, le premier, il est accessible par ceux qui peuvent y monter, voilà. Eh bien non, ça va pas. Il faut monter un ascenseur. Alors cet ascenseur coûte une fortune. Mais une fortune, c'est inimaginable. Et alors, vous dites, mais attendez, nous on va mettre une petite pancarte en disant, le premier étage, c'est pas la peine d'y monter, il n'y a rien de spécial. Ah oui, mais c'est pas correct, il faut que les handicapés, terme imbécile, je vais m'expliquer tout de suite, les handicapés puissent accéder au premier étage. S'il y avait le caprice de monter au premier étage, il faut qu'il ait les moyens, autrement on n'est pas dans un système égalitaire. C'est un franc délire. Alors moi, s'il me prend le caprice de courir le 100 mètres en 9 secondes, eh ben, je suis désolé, vous pouvez créer tous les handicaps que vous voulez ou tous les avantages pour les handicapés, je ne courrais pas le 100 mètres en 9 secondes. Pas plus d'ailleurs qu'en 2 heures, parce qu'un 100 mètres, je serais mort au 50e mètre. Mais on est dans le délire. Alors maintenant, sur le mot handicapé, qu'est-ce que c'est qu'un handicap? C'est la chose qu'on donne à un cheval Enfin, c'est le comment dirais-je, le surplus de poids ou de distance.
Distance au trot.
Qu'on donne à un cheval.
Pour égaliser les chances.
Pour égaliser les chances. Voilà. Alors, à qui est-ce qu'on donne un handicap? C'est aux chevaux les plus forts.
Évidemment.
Alors, quand on appelle des infirmes des handicapés, c'est se foutre de leur gueule. C'est leur dire, attendez, vous êtes tellement fort, tellement meilleur que les autres, que le bon Dieu a jugé utile de vous filer une paralysie générale des membres inférieurs.
C'est parfois vrai, Serge.
Qui c'est vrai? Quand?
Mais il y a des génies qui n'ont pas de jambes ou pas de bras.
Attendez, on parle de physique là, vous. Mais ça a rien à voir. Non. C'est pas un handicap, non, c'est une infirmité.
Avec les courses, enfin, je voudrais redire à ceux qui m'écoutent, parce qu'ils pourraient se tromper, qu'à Riomont, on accueille forcément énormément de gens en fauteuil roulant, des handicapés, etc. Et que bien sûr, on avait prévu de faire dans le bâtiment des pièces pour handicapés qui étaient juste devant l'infirmerie. Voilà. Seulement, il nous faut faire un ascenseur extérieur. Je ne donne pas la somme pour pas décourager les gens qui font des dons actuellement, mais qui est une somme quand même très importante pour monter donc sur ces deux étages. Je voudrais pas qu'on passe la soirée sur la mise aux normes des bâtiments. J'en ai parlé ici énormément de fois. Donc je pense que les gens qui ont l'habitude d'écouter Radio Courtoisie savent que c'est quelque chose qui devient urgent maintenant. Voilà. Et Pierre Arnaud a bien fait de dire que c'est le pavé dans notre soulier. Évidemment, ça nous empêche de faire autre chose.
Mais moi, j'en profite, si vous voulez, pour glisser mon discours habituel sur l'utilisation de la langue comme moyen de manipulation des masses. On vous raconte des carabistouilles quand on vous parle d'handicapés. C'est pas des handicapés. Il y a des gens qui sont des infirmes. Moi-même, d'une certaine manière, je suis un infirme parce que je peux pas monter au 8e étage en courant. Voilà. Bon, je voudrais bien le faire, mais je peux pas. Et j'oblige pas mon propriétaire à fabriquer un ascenseur ultra rapide.
Moi, je pose une question. Quand est-ce qu'on va mettre tous les bâtiments administratifs alors aux normes? Par exemple, la salle Garnier, l'Opéra Garnier.
Alors, c'est à ça. Voilà. Et c'est à ça que je voulais en venir. C'est que cet argument de l'accessibilité. C'est pas autre chose qu'un moyen de vous interdire de vous développer normalement. Parce que quand on vous dit il faut être aux normes, moyennant quoi vous aurez accès à certaines subventions.
C'est un handicap.
Et ben ça, c'est un vrai handicap. Voilà.
Voilà. Alors ça ne vient pas d'ailleurs du maire, de la mairie, de la ville où nous sommes, mais ça vient.
Je pense que si c'était le maire de Liévin,
lui, il obéit aux lois. Si vous voulez, ça vient plutôt.
Il applique la loi, mais
de la préfecture.
Je crois que c'est un très brave homme en fait qui.
Du gouvernement.
J'ai l'impression que c'est un.
Oui, il n'est pas contre. Il n'est pas contre le village d'enfants.
Il ne peut pas être
absolument
contre le village
pas.
Puisque son village à lui, le village de Liévin, est pour le village d'enfants.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment bien, que ce soit des commerçants. Il y a peut-être des gens de Liévin qui m'écoutent parce que on a su qu'il y avait cette émission et je dois dire qu'on a une grande sympathie et d'ailleurs certains étaient au marché de Noël, je les ai rencontrés et il y avait aussi des élus de la ville qui étaient au marché de Noël, ce qui est quand même sympathique, ce qui prouve qu'au-delà de tout on peut attirer par charité la sympathie et on se rend compte aussi que le père Revet a fait une œuvre remarquable car combien d'anciens travaillent dans ce pays des mines et ont la fierté de dire à leur employeur, j'ai été élevé à Riomont, j'ai eu énormément de témoignages de jeunes qui d'ailleurs interviennent quand on attaque Riomont dans l'endroit où ils sont pour dire c'est pas vrai, j'y étais. Et c'est le plus beau témoignage qu'il puisse y avoir.
Alors, des témoignages, on va en avoir tout à l'heure. Ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que on va faire une petite parenthèse parce que On a promis de donner la parole à Cécilia, et puis j'ai demandé à Patrick Goffin de profiter. Je me dis s'il y a des pièces qui tombent au cours de la quête Sébille. pour Riomont, je peux peut-être les ramasser pour mon journal, qui a toujours besoin d'argent.
Vous écoutez Radio Courtoisie, Serge Debecque, je reçois le père Aguirre ce soir, une émission spéciale Riomont. Vous aviez remarqué? Mais on va s'identifier tous les quarts d'heure.
Le père Revet a voulu faire de Riomont un jardin de fleurs. Il aimait beaucoup les fleurs et je suis très content que Cécilia puisse parler.
Non, bah c'est très bien, voilà. Oh, très très bonne liaison. Est-ce qu'on a Cécilia au téléphone? Oui, on l'a. Alors je vais chausser mon casque, ou coiffer plutôt. Je vais chausser, ça serait bizarre. Allô Cécilia?
Oui, bonsoir père.
Comment allez-vous, cher ami?
Moyen.
Ah bon?
C'est cadeau de Noël. Je n'ai plus Radio Courtoisie sur le.
Ah, ça, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des choses qui arrivent. Il faut faire appel à TPS, qui est une excellente maison, et je vous invite donc de souscrire. Ah, alors si vous êtes pauvre, alors évidemment, vous n'avez pas accès à Radio Courtoisie. Mais n'empêche que vous pouvez y parler, faute de pouvoir l'entendre.
Alors, voilà, je vous dis bonsoir, je salue le père Arguars aussi, et tous ceux qui vous entourent. Je dis bonsoir aux auditeurs. Alors, je vais prendre quelques minutes pour présenter quelques livres d'actualité, disons. Mmh. J'ai entre autres deux almanachs. C'est le moment de les offrir et de les feuilleter, et ensuite on en profite toute l'année. Alors j'ai d'abord l'almanach de la nature, ou 12 mois d'observations et découvertes. C'est édité par Delachaux et Niesley et Terre Sauvage. Alors évidemment, bon, il y a 12 chapitres, n'est-ce pas, un par mois. Il y a des photos, on y parle d'écologie, de météorologie, on y parle de la faune, on y parle des plantes, on y fait des tas de découvertes, on apprend comment réaliser un herbier, un purin de plantes pour éviter les produits chimiques. Et alors il a aussi de très jolies aquarelles, de très jolis dessins, et des photos absolument extraordinaires qui sont toutes pleines de poésie. On y apprend aussi des choses. Alors, il y a aussi des petits ditons. C'est absolument indispensable dans un almanach. Par exemple, avez-vous remarqué si les hirondelles étaient encore là le 29 septembre pour la Saint-Michel?
Je vous avouerai que j'ai assez peu d'hirondelles dans mon quartier. Enfin, sauf les hirondelles qui nous enquiquinent, mais moi, je m'en fous, j'ai un garage.
On nous dit que quand les hirondelles voient la Saint-Michel, qui est, comme tout le monde le sait, le 29 septembre, l'hiver ne vient qu'à Noël. Alors, comme l'hiver n'est pas encore là...
Mais il arrive, là, il commence à faire froid. Moi, je peux dire, j'ai dormi sans chaussettes et j'ai attrapé un rhume. Alors,
c'est pas sain de dormir sans chaussettes.
Bah non.
De toute façon, il y a aussi celui-ci. Alors ça, c'est une prévision. À la Saint-Pierre, on nous le donne pour le 18 janvier. L'hiver s'en va ou se resserre. Donc, il faudra faire attention. Et là, j'ai dessous une photo de petits canards, là, des colverts et tout. C'est absolument. On a envie de les caresser. On s'y croirait. Alors, l'ouvrage est collectif et il a été réalisé sous la direction de Catherine Perrin. On le trouve, je crois, dans toutes les librairies, dans toutes les jardineries, parce que c'est très, très à la mode en ce moment, tout ce qui concerne la nature. Et il coûte, j'ai son prix quelque part là, il coûte 19,95 € ou 36,70 francs suisses, parce que c'est une édition suisse, n'est-ce pas?
Oh, c'est très bien.
J'en ai un autre.
C'est à lire lentement, alors.
Voilà. J'en ai un autre qui est assez exceptionnel. Il s'intitule « Sagesse paysanne » et comme sous-titre « 366 proverbes et ditons au rythme des saisons ».
Alors ça, il faut le faire lire par notre ami Michel Delière.
Oui, eh bien, je crois qu'il lui plaira. Alors, il pèse au moins 3 kilos. Heureusement que je suis pas venue cette fois-ci, parce que je crois que j'aurais même pas pu le trimballer. Et les photos sont absolument superbes et on balaye. Alors, en 366 photos, on a de quoi balayer toutes les provinces de France. Et la préface et les textes qui introduisent chaque mois sont d'Alain Baraton, que nous connaissons.
Oui, qu'on a reçu ici.
Et les deux auteurs espère que la paysannerie et les paysages de France ne vont pas disparaître complètement.
Mais il faut qu'ils s'abonnent au Libre-Journal parce que nous allons commencer une série d'articles sur cette question qui s'appellera « La Terre ne ment pas ».
Extraordinaire. Alors il y a donc pour chaque jour de l'année, y compris pour le 29 février, des ditons, tiens, pour le 6 janvier, on nous dit que les hivers les plus froids sont ceux qui prennent vers les rois.
Ah, très
joli. Alors, il y a aussi ceci que j'aime beaucoup, qui est de circonstance. Les oiseaux de même plumage volent en groupe.
Est-ce que vous avez Toussaint en novembre, Noël en décembre? Qui est un des proverbes complètement avérés du répertoire paysan.
Je cherche parce que, écoutez, j'ai pas eu le temps de les lire. Je vais les lire un par un chaque jour. Hein. Alors ça, c'est extrait du livre de l'Ecclésiastique. C'est assez actuel, disons, comme... Alors, un qui nous concerne tous, demain est souvent le jour le plus chargé de la semaine.
Mmh, joli.
Et puis alors, il y en a un.
Ouais, c'est plutôt hier, mais enfin.
Il y en a un que j'aurais pu garder pour ma conclusion, mais que je vais quand même vous donner tout de suite, qui est de Sénèque, et je trouve qu'il est très prémonitoire. L'arbre devient solide sous le vent. Quels sont les vents? Quel est le vent de 2006?
Sénèque, ta mère.
Alors c'était donc un très très beau livre cartonné qui pèse, je vous dis, environ 3 kilos et qui vaut 30 €. Il est...
Ah, c'est au poids, c'est pas cher.
Non.
Mais il est costaud de lire.
Il est publié par les éditions Deboré. Deboré en deux mots. Ce sont des éditions Rouergat. Hein. On fait beaucoup de bon travail là-bas dans les provinces de France. Et puis alors pour nos chers petits qui sont en vacances, des choses un petit peu plus légères. J'ai deux choses assez amusantes, un petit peu modernes, disons. Alors d'abord, le premier s'appelle « Les jeux de télépotager ». C'est un livre qui présente un certain nombre de jeux et qui pastiche en quelque sorte toutes les émissions d'une chaîne supposée qui s'appelle donc Télépotager. Et je vais vous donner un petit... Alors il y a des feuilletons, des recettes de cuisine, des reportages. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a Flash Info. Le sourire de Claire Salade fait du journal télévisé un moment fort de Télépotager. Mignon, non? Et tout est à l'avenant. Les dessins sont extrêmement modernes. Je pense que des jours de pluie ou des jours de neige, eh bien, nos chers petits peuvent s'amuser. Et puis, ça peut leur apprendre à prendre une certaine distance envers, justement, les...
Il y a beaucoup de légumes dans cette histoire, sœur Cécilia. Oui,
oui, oui. Oh ben oui, j'ai...
Sûrement beaucoup de courges, non?
Oui, oui, oui. Oui, exactement.
Ce sont des livres qui plurent.
Oui. Alors la dernière page est très mignonne. Alors c'est dédicacé à deux petits-enfants, je suppose que ce sont les enfants des auteurs, que je n'ai pas encore nommé. Nous vous quittons avec la sonate au clair de lune de Ludwig von Beethoven.
Ça, je m'incline là. J'abandonne la compétition.
Il est très gay, il est très rigolo, il est très... Bon, c'est une petite... Alors en plus il coûte 10 euros. Pour une centaine de pages de jeu, c'est quand même pas mal. Alors un autre qui parle encore de légumes, je suis désolée, et qui est très original, ça s'appelle « La bataille des légumes » de Philippe Bertrand. Il est l'auteur... Alors, le précédent, c'est chez Milan Jeunesse. Hein. « La bataille des légumes » de Philippe Bertrand, qui est l'auteur du texte et des illustrations. C'est publié chez Naïve, et je donne tout de suite le prix, 13,90 €. Il est cartonné, il est ravissant. Il est écrit dans un style un petit peu moderne. Je vais vous donner un petit exemple. La soupe à la grimace où ça tourne mal. Quelques instants plus tard dans l'arrière-boutique... non, c'est pas tout à fait ça. Trois artichauts patibulaires. Non, c'est encore pas...
Des artichauts patibulaires, c'est oui. Pas mal, ça.
Et alors, il y a le... Non, il y a un petit passage qui est très rigolo. Un jour, les légumes longs semblaient prendre le bouillon, parce que c'est la guerre entre les légumes longs et les légumes ronds. Un jour, les légumes longs semblaient prendre le bouillon, le jour suivant, c'était les ronds qui se faisaient éplucher.
Très bien.
Alors, il y a une réunion avec où les journalistes horticoles sont un petit peu épinglés. J'ai l'impression que ce livre, il n'a pas été conçu en quelques jours, parce qu'il est assez soigné, mais il ferait allusion à certains événements, n'est-ce pas, plus ou moins récents et hélas peut-être futurs, que ça ne m'étonnerait qu'à moitié.
Ah bon, pourquoi il parle de brûler des carrioles de légumes, non?
Des citrouilles. Oui, c'est en gros c'est un peu ça quand même.
Merci beaucoup, Cécilia.
Voilà, alors j'en ai un petit dernier à tout.
Oui, alors, un ultime.
Il est délicieux, il s'appelle Les Trois Arbres. Il est publié chez Mediaspol, c'est un conte libanais qui a été réadapté par le père Gabriel Ringlet et illustré par Daniela O, qui est une religieuse annonciade de Belgique. Et il est, alors c'est l'histoire de trois arbres qui rêvent, qui ont de grands rêves. L'un veut devenir le plus beau coffre à trésors du monde, l'autre un grand bateau, le troisième l'arbre le plus haut du monde. Et puis des bûcherons viennent les abattre et ils connaissent chacun un destin inattendu. L'un devient, je vous laisse deviner à quoi il servira ensuite, une mangeoire, l'autre un petit bateau de pêche du côté du lac de Tibériade, n'est-ce pas? Et le troisième, deux poutres qui un jour serviront à faire une croix.
Ah, très beau.
Ce conte a soutenu la foi des enfants libanais pendant des générations. Et il est très joliment illustré, c'est très gai, c'est un petit peu oriental, c'est très joli. Il coûte 7 euros. C'est vraiment le petit cadeau d'assiette, n'est-ce pas, à faire à tous les petits-enfants de votre entourage.
Merci beaucoup. Voilà.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Puis je vous
joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Au revoir, Cécilia. Voilà, c'était Cécilia au téléphone, et puisqu'elle parlait de livres, vous voulez aussi absolument nous proposer des livres, vous ?
Bien sûr, c'est malheureux qu'elle ne puisse pas recevoir Radio Courtoisie, puisque le Libre Journal imprimé, lui aussi propose des livres et des livres jardiniers, et c'est en couleur cette fois. Alors, si le voisin de Cécilia veut bien noter, et puis lui mettre dans sa boîte aux lettres ensuite, notre amie Marie-Claude Monchaud, une collaboratrice du Libre Journal qui a fait une magnifique carrière dans l'édition internationale, nous propose donc sur une double page en couleur, notamment Le Bateau Vert de Quentin Blake chez Gallimard, L'Effet du Jardin de Béatrice Philpotts, au Pré-au-Clair. Il y a également le carrousel de Pierre Lapin avec le...
Ça, c'est pour les petits-enfants.
Ouais, pour
c'est
les petits-enfants.
Très, très joli.
Ah, moi, je suis très sensible à Pierre Lapin encore, malgré mon âge avancé. Et puis, encore une page en couleur qui est tout entière consacrée aux œuvres de la même Marie-Claude Monchot, Adélaïde, Louis XIV, l'enfance de nos rois, de nos reines et de nos princesses. Ça n'est pas tout. Donc, dans le numéro 366 qui vient de paraître du Libre Journal, nous avons comme toujours la chronique mondaine de notre divin marquis qui était au bal des débutantes à l'hôtel de Crillon le 26 novembre et qui nous révèle la presse pourrie s'est bien gardée d'en parler, mais c'est dans le Libre Journal en exclusivité, cache les bûches, trébuche, cette bûche. Et quelques autres faits et gestes de jeunes filles riches et célèbres. Nous avons le Noël aux Antipodes en Malaisie. Et puis la même Marie-Claude Monchot qui remonte le moral de SOS Amitié. Bref, un numéro de temps.
C'est un joli papier.
Oui, c'est charmant.
Elle est toute. Je résume en deux mots. Elle est toute seule chez elle. Donc puis elle a des insomnies. Alors elle téléphone à SOS Amitié. Et là, elle tombe sur une dame qui est la répondeuse. En quelque sorte, de son amitié.
Qui est censé la consoler.
Qui est censé la consoler, mais qui est complètement à la ramasse. Et c'est Marie-Claude qui réconforte.
C'est un sketch. Et elle le raconte avec beaucoup d'esprit. C'est tout à fait amusant et caractéristique de l'époque intéressante que nous vivons. Puisque donc, ce sont les journalistes du Libre Journal, là, dans son petit ghetto, qui doivent consoler les consolateurs officiels. Donc, ce numéro 366 se recommande également par Les Couleurs, qui l'illumine pour le même prix. Je voudrais te dire un dernier mot en faveur du numéro précédent, 365, qui ruisselle véritablement de révélations, notamment sur ce monsieur Descoings, le gourou de la discrimination positive qu'on voit dans tous les kiosques en ce moment à la une du magazine économique Challenge, et sur lequel nous faisons des révélations aussi scandaleuses qu'exclusives. Révélations également sur la mort de Diana, révélations sur les émeutes dans les banlieues, révélations exclusives, donc dans le numéro 365. Alors l'un comme l'autre, on peut les commander contre un carnet de timbres chacun ou 5 €. On peut également s'abonner, on doit également s'abonner pour un an au prix de 110 €. Et tout ça se fait à la même adresse, à l'ordre de SDB, même adresse, SDB 4 Place Francis, 75010 Paris. Si on n'est pas convaincu, échantillon spécimen gratuit sur notre site internet francecourtoise.info.
Il faut remercier d'ailleurs les gens qui s'occupent du site internet, puisque ils ont...
C'est complètement bénévole et indépendant. Ah, ce sont des amis du Libre Journal qui veulent en faire la promotion.
Et qui ont déjà, affiché la une du dernier numéro.
Regardez Serge, il est 20h pile, alors c'est le moment de dire, vous écoutez sur Radio Courtoisie, continuez, retournez votre télé contre le mur, restez avec nous.
Alors, je reviens vers Pierre-Laurent Sarr pour lui demander, alors, de répondre maintenant à ma question de tout à l'heure, puisque nous avons évoqué la question de la transformation des locaux, la mise aux normes des locaux, mais je voudrais quelques mots sur l'église, s'il vous plaît, puisque je crois que vous êtes obligé de nous quitter assez rapidement.
Ben, je pense que d'abord l'église est dans l'axe de travail architectural que voulait le père Revet. C'est-à-dire que tout le village d'enfants est fait à l'échelle des enfants. Il est fait de beaux, c'est-à-dire de belles proportions. Et vous regardez même, quand vous rentrez dans les bâtiments, vous y retrouvez des armoires anciennes, des meubles qui parlent, qui ont une histoire et qu'on respecte. Ça fait partie de la tradition aussi. Le Percevin disait, il est toujours bon de se retremper dans l'esprit de nos origines.
Percevin, c'est le fondateur du scoutisme français.
C'est le fondateur, c'est lui qui a porté au front baptismaux le scoutisme mis au point par Baden-Powell. Et je pense que l'art roman, c'est précisément aller rechercher l'esprit de nos origines, voir comment ils ont travaillé, une beauté simple. Un dôme posé sur un cube, un demi-rond posé, une demi-sphère posée sur un cube, par exemple. Ce sont des formes simples, mais qui éveillent tout un symbole. Et derrière, c'est sous-tendu par tout un travail intellectuel, mais ce travail intellectuel est proche d'une spiritualité pratique.
c'est une spiritualité très pratique et que nous, nous avons peut-être un peu édulcoré quelque part ou oublié.
Est-ce que vous vous êtes inspiré, pas inspiré, est-ce que le rôle de la chapelle actuelle, de l'église actuelle de Royaumont, qui est particulièrement, on l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, particulièrement forte,
oui.
on est pris quand on est dedans, oui. On est vraiment dans un lieu où le surnaturel est là, où le...
Oui. On est dans la même famille de travail.
Ça vous a inspiré, donc
ça, ouais, bien sûr.
Sur l'ambiance de Royaumont, c'est quand même une ambiance très particulière.
On ne peut pas déparer, je veux dire, ouais. Par là qu'il y en a qui s'y étaient donné par le Père Revet, et il faut être en harmonie. On ne peut pas parler de l'Église sans parler du beau. Le beau aujourd'hui... On a vu une exposition à ce qu'on appelait autrefois l'école des beaux-arts dans une ville du Nord. On avait exposé des crottes humaines.
On aurait mieux fait de montrer les portraits de leurs auteurs, ça aurait été plus intéressant.
Ben oui. Alors on est très très loin du beau, dans une école dite des beaux-arts.
Est très loin du nouveau aussi, puisque Duchamp faisait ça au début du siècle. Il serait temps qu'il trouve une deuxième blague au bout de 100 ans, 100 ans après Dada, vous croyez pas ?
Oui, si. Mais il y a une paire d'années déjà, mais quand même. Or, le beau obéit à des règles. Et nous avons retravaillé, nos plans en fonction des règles d'architecture classique, notamment les proportions, la proportion dorée, le nombre d'or, et qui évoque une résonance chez nous, puisqu'on sait bien qu'il y a une découverte qui a été faite il y a quelques années, et qui trouve que... l'acide ribonucléique et l'acide diribonucléique, c'est-à-dire les composants vraiment de ce qu'on est, de physique, de
l'ADN.
Oui, l'ADN et l'ARN. Hein. Les composants physiques de ce qu'on est sont proportionnés et sont une chaîne proportionnée selon le nombre d'or. C'est-à-dire que ce nombre d'or, on le retrouve un petit peu partout dans la nature. On a dit que c'était l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la création, c'est l'empreinte du Créateur. Et retravailler selon les proportions dorées, ben évoque tout simplement à une résonance en nous, parce qu'on le sent. Et quand on a
signalé à ce propos qu'il y a un livre de Philippe Lamarck qui vient de paraître sur le nombre d'or, qui est un chef-d'œuvre,
voilà,
qui est extraordinaire et dont je recommande la lecture, parce que ce que vous dites est tout à fait vrai. On retrouve ce nombre et cette proportion dans les coquillages, dans les fleurs, absolument, dans les marguerites, et effectivement dans les églises, dans les lieux.
Alors ça nous a fait retravailler, puisqu'on avait premièrement fait un plan qui n'était pas selon la proportion dorée, qui était un petit peu d'inspiration romane, mais comme on le sentait. Et on a voulu retravailler toutes nos proportions selon le nombre d'or. On a une unité également, on a retrouvé, je vais dire quelque part amusant, de retrouver une unité comme on le faisait à cette époque-là, une unité de valeur, c'est-à-dire au lieu d'avoir un maître, si vous voulez, on avait un coudé, ou tout au moins on avait le maître d'œuvre avait son bâton qu'il reportait plusieurs fois, et on a une unité qui est de 440 cm. Alors vous me direz, c'est en centimètres, ça veut rien dire, peu importe. Mais le nombre 400 est très intéressant, parce que c'est le nombre traditionnel de la croix. C'est le nombre du taux. Et 40, c'est le nombre du royaume. Et le royaume de la croix, quelque part, pour l'unité de cette chapelle de Riemont, de cette église de Riemont, ça évoquait quelque chose, évidemment, de bien grand. Et puis...
Et 40, c'est un nombre qu'on trouve dans l'Écriture sainte,
bien sûr,
de nombreuses fois, au désert, Oui, on va leur donner la parole, parce que le père est très inquiet, mais je vous signale qu'il nous reste encore presque une heure, donc ils vont avoir le temps de parler, vos gamins, là.
Cette église en construction, monsieur Jean-Paul Argouarche, je suppose qu'on peut voir des photos, qu'on peut voir où elle en est, pour les auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur, sur votre site internet riomont.net, oui, par exemple.
Absolument, il y aura le portail. Déjà au marché de Noël, on avait illuminé le portail qui est fait à l'ancienne, avec les anciennes méthodes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mortier ou de ciment entre les pierres. Toutes les pierres s'encastrent les unes sur les autres. C'est dû à un sculpteur, un artiste qui s'appelle Monsieur Ropin, comparse qui vient par tranche de 15 jours, 3 semaines chez nous pour travailler. Et puis, il y a toujours ce clocher qui est maintenant fait complètement. Et donc, j'en ai déjà parlé à Radio Courtoisie, l'hôtel est orienté vers Jérusalem, vers le Golgotha. Je suis le seul prêtre à avoir célébré la messe à cet endroit. C'est très émouvant.
Vous diriez qu'elle est bâtie à 60-70%?
Non, elle est bâtie à 5%.
Ah bon? Mais ça me paraît pas beaucoup, 5%, parce que...
Avec le clocher,
il y a quand même le clocher.
Non, pas du tout, pas du tout, c'est énorme.
Ah non,
c'est
parce énorme. Que vous parlez de l'intérieur.
Je parle du clocher et du portail. Ouais. Le deuxième clocher, la façade ne sont pas faites, les murs des bas-côtés de l'église ne sont pas faits, les transepts ne sont pas faits, le cœur de l'église n'est pas fait. Mais c'est déjà immense. Quand vous entrez dans ce clocher, c'est déjà une grande chapelle, à la limite.
Oui, quand on va sur place, on a l'impression qu'elle existe. Parce que
comme on n'avait pas le droit de construire à plus de 10 mètres de hauteur, on a dû descendre de pratiquement 5-6 mètres, de manière à ce que notre voûte soit à bonne hauteur. Mais tous les problèmes, d'ailleurs, ne sont pas réglés, et nous espérons que nous aurons le permis de construire pour tout, puisque on a pour l'instant la nef, et il nous manque encore le transept et le cœur, mais j'espère que le maire de Liévin, dans son plus, pensera que cette église ne peut pas être amputée du cœur et des transepts. Ce serait quelque chose qui serait une mutilation terrible.
Il y a une mosquée à Strasbourg qui va bénéficier de fonds publics. Après 10 ans de querelles intermusulmanes à Marseille, enfin la grande mosquée de Marseille va être construite en grande partie avec des fonds publics. Mmh. Alors peut-être que tout ne va pas être financé par les auditeurs de Radio Courtoisie qui viennent d'atteindre le chiffre de promesse de don, Serge ?
7132 euros. Je trouve que c'est...
Ça monte.
J'invite ceux qui nous écouteront cette nuit à faire un effort équivalent, et ceux qui nous écouteront demain matin à faire un effort équivalent. On devrait arriver.
On peut envoyer un chèque sans faire de promesses au téléphone.
Bien sûr.
Oui, et je vous rappelle à quel intitulé.
Voilà.
Association Notre-Dame de Riaumont, et l'adresse où vous envoyez votre lettre, Village d'enfants de Riaumont, boîte postale 28, 62 800, Liévin, Cedex. On nous demande de répéter le téléphone de là-bas, mais c'est pas utile. Hein, parce qu'il y a
non, parce que il vaut mieux téléphoner à des portables ou écrire, on vous rappellera. Mais il y a des cours, donc il n'y a pas de standardistes. Nous ne sommes pas assez de religieux pour l'instant. On parlera de la communauté un tout petit peu, pour pouvoir répondre à tous les appels. Ça sonne, et puis les religieux sont en cours. Ils font des cours.
Dieu, ils pourvoient.
Et voilà. Une auditrice vous demande, mon père, est-il possible de vous adresser un virement mensuel? Si c'est possible, je pourrais vous donner 15 euros par mois. Alors, vous lui répondez ?
Oui, absolument. Écrivez-nous, on vous enverra le formulaire. Donc, et c'est très, très bien, parce que ça nous fait un fixe tous les mois.
Toujours à la même adresse, Village d'enfants de Rio.
C'est une très bonne idée.
Postale 28, 62 801, Liévin, Cedex.
Ah, c'est voilà. Évident que vous pouvez également téléphoner en disant, je fais ma promesse, j'enverrai 15 euros, je fais faire un prélèvement de 15 euros par mois.
Mais à ce moment-là, il ne faut pas téléphoner, il faut téléphoner à l'oral. C'est pour le coup, il faut écrire à Rio.
Écrire à Rio pour recevoir
un formulaire. Parce que là, c'est pratique.
Alors, je vais demander à Pierre-André Ansart, à moins qu'il ait encore quelque chose à nous dire, de laisser une place au premier témoin, qui est un garçon. Vous voulez
rajouter
une
petite chose qui me tient à cœur, parce que je suis également à Riaumont le chef du Cercle Saint-Georges. Alors, il faut quand même l'évoquer, parce que c'est quelque chose de relativement récent, ça a une dizaine d'années. Et ça s'adresse aux adultes qui veulent vivre de la spiritualité scout. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un scoutisme à part entière, on va pas courir dans les bois, mais c'est un scoutisme sur le plan spirituel. Et un scoutisme ne peut pas être désincarné du réel, donc la partie on touche au réel en aidant à Riaumont, on est très proche de Riaumont. Et quand on ça s'adresse aux adultes, on dit à peu près de 30 ans à 95 ans et plus. J'ai reçu notamment il n'y a pas très longtemps à la veillée pascale la promesse d'un colonel parachutiste de 67 ans qui veut terminer sa vie en scout. C'est très très beau. Et nous avons une réunion par mois. Et je pense que si Baden-Powell a inventé un moyen formidable de formation de la jeunesse mais quand on dit formation, c'est formation sur tous les plans, spirituel, pratique, ouverture de l'esprit, sens du pratique, etc., sens du réel. Ce scoutisme a été porté au front baptismal, on le disait tout à l'heure, par le père Sauvin. Et aujourd'hui, c'est également, je crois pouvoir l'affirmer avec 10 années d'expérience, une œuvre de persévérance pour les adultes qui est réelle. Et quand je dis persévérance, c'est pas que sur la spiritualité, mais on voit des personnalités également s'affermir grâce au scoutisme, s'épanouir grâce au scoutisme. Je suis un petit peu sidéré parce que ça marche. Bon, c'est tout. Je voulais réagir.
Mais vous savez que on n'a pas été scout, on est scout. Et le drame du scout, c'est que quand il devient adulte, il a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ça m'étonne pas du tout que le fait de retrouver par des groupes comme le groupe Saint-Georges la spiritualité scout et la règle soit une pour les scouts de 50 ans, 60 ans, comme certains que je connais, soit un vrai bonheur.
Alors, il y a des scouts, on a par exemple des scouts de France qui nous rejoignent, des scouts d'Europe d'ailleurs, mais vous avez également des gens qui n'ont jamais fait de scoutisme, qui ont toujours eu envie d'eux, et les circonstances de la vie ont fait qu'ils sont passés à côté, et qui viennent nous rejoindre.
Et là, c'est pareil. Alors, on écrit à Riomont, si on veut entrer en contact avec le groupe Saint-Georges.
Riomont.net.
Riomont.net.
Laporterie.com.
Ou Riomont, alors naturellement, ça y est, j'ai déjà perdu l'adresse.
Association Notre-Dame de Riomont, BP 28, 62 801, Liévin, Cedex.
Et pendant le jeu musical, un auditeur qui est un vieux pompier de Paris rappelle au père Arouache qu'il est interdit d'employer l'ascenseur en cas d'incendie. Et à propos des nouvelles normes, un énorme monte-charge pour handicapés vient d'être installé dans la crypte de la basilique Saint-Denis. Il la rend hideuse. Il cache même des inscriptions funéraires.
Alors maintenant, on va donner la parole à des témoins. Le premier témoin, c'est un garçon, je ne vais pas vous expliquer parce que ça serait trop long, mais il appartient non seulement à la légende de Riomont, pas lui personnellement, mais son nom. Et pas seulement à la légende de Riomont, à la légende du pèlerinage de Chartres, à la légende de notre famille, puisque c'est Bernard de Cotigny qui est le fils de Cotigny et le frère de 72 786 Cotigny, de Cotigny, mâle et femelle.
87.
Bon, 87, c'est déjà bien. Mâle et femelle, c'est-à-dire c'est une dynastie, je sais pas comment on peut expliquer. Enfin, ils sont innombrables, ils sont partout. Mettez un coup de pied dans un arbre, ils tombent 50 de Cotigny. Genre, ils se battent avec tout ce qui bouge autour d'eux. Et y compris avec mon fils, parce que bon, mais enfin, je leur en veux pas trop quand même. Désolé. Et alors voilà, je suis très content de recevoir Bernard, qui est un jeune homme extrêmement brillant et sympathique, qui aujourd'hui exerce un métier. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, comme d'habitude, vous êtes technicien ou...
Non, je suis ingénieur en aérospatial.
Ah voilà, c'est ça. Technicien. Déjà, je commençais à le réduire. Il est ingénieur au CNES,
Centre National d'Études Spatiales.
D'Études Spatiales. Donc, quand vous montez dans une fusée pour aller dans la Lune, il y a un petit peu de Cotigny qui part avec vous.
Là aussi.
Et je lui ai demandé de venir ce soir, comme j'ai demandé à Erwan Flock qui va prendre la parole après, et puis à d'autres, parce que c'est vrai que l'image qu'on a de Riomont, c'est un peu l'image d'une voiture balai, hein, qui ramasse les gosses qui ont des problèmes, les gosses qui essayent de les adapter à la vie. Bon, et c'est parfois une réussite tout à fait exceptionnelle. Et je trouve que Bernard de Cotigny fait partie de ces réussites. Alors. Parce que c'est quand vous avez un vrai métier, vous avez une position, et j'aimerais que vous nous racontiez, non pas ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'on l'a dit, mais vos souvenirs de Riomont. À quel âge y êtes-vous entré? Comment ça s'est passé? Quel a été votre premier contact? Et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Moi, je suis rentré à Riomont à l'âge de 0 ans, puisque maman m'a donné le sein dans le bureau du père Revet, donc... de manière plus formelle, j'ai intégré Riomont à 11 ans. J'en suis sorti 15 ans après avoir effectué ma seconde. Et pour vous donner une idée à peu près d'à quel point ça m'a marqué, je n'ai quasiment aucun souvenir d'avant 11 ans. Parce que c'est comme si ma vie avait commencé à Riomont. Et qu'est-ce que je dois à Riomont ? Ben, tout. c'est à peu près aussi simple que ça. Quand je suis arrivé à Riomont, ben, j'étais un enfant, à peu près perdu, enfin, comme tous les enfants, on ne sait pas trop comment se positionner, surtout quand on est dans une famille nombreuse.
Oui, parce que vous êtes une famille, je ne sais pas, combien êtes-vous dans votre famille
Alors moi j'ai 6 frères et 6 sœurs, ça fait une famille de 13 enfants.
C'est ça, oui, donc c'est un bon début pour une famille nombreuse.
Je ne sais pas beaucoup de mérite
pour ça. Je ne connais plus nombreuses, mais...
Qu'est-ce que vous avez contre le rugby à 15
Rien, justement. Voilà. Je suis très content de savoir qu'il y a des familles de 13 enfants. Ça oblige les garçons à se marier et à faire des enfants très jeunes pour pouvoir compléter l'équipe. Quoi. C'est...
Voilà. Et donc pour quand je suis arrivé à Riomont, j'étais pas grand chose et Riomont m'a donné l'occasion de me fortifier. Alors bien sûr, parfois ça passe par une certaine rudesse, et en tout cas une certaine discipline qui est plus que nécessaire. Et sorti de Riomont, quand on part de Riomont, on a toujours l'impression d'être libéré de quelque chose. Mais c'est au moment où on en part, en fait, qu'on se rend compte qu'on aimerait bien y rester. Et qu'on aurait dû réfléchir bien avant ce que ça nous apporte. Parce que c'est là qu'on, quand on n'en a plus ce qui nous soutient, on se rend compte que c'était ça qui nous soutenait.
J'ai reconnu le bonheur en voyant Sando.
Exactement. Et dès lors qu'on est lâché dans la vie, qu'on a besoin de lutter face aux difficultés que le monde ne manque pas de nous offrir, c'est là qu'on se rend compte que on est content d'avoir appris à lutter. On a appris dans quelle direction il fallait marcher. On a appris à marcher. On a appris à avoir mal aux pieds, à avoir froid, à avoir faim. Et ça nous permet de considérer la vie avec beaucoup plus de recul et de goûter bien plus notre bonheur d'avoir des petites choses. Et c'est tout ce que Riomont m'a apporté. Et maintenant, si je suis chrétien, c'est grâce à Riomont. Si je suis scout, bien sûr, c'est grâce à Riomont. Si j'ai pu fonder une famille, c'est parce que Riomont m'a donné la force de m'engager.
Il y a des mariages entre scouts, guides, ça passe par Riomont aussi, c'est aussi
une forme de logique. Riomont reçoit des garçons et des filles qui partagent le même idéal, donc il y a une forme de, enfin, c'est statistique, il y a plus de probabilité de rencontrer quelqu'un avec lequel on a envie de se marier quand on sait qu'on partage a priori le même idéal. Donc je crois pas que, enfin, je sais qu'on a reproché à Riomont d'être une sorte d'agence matrimoniale, mais moi ça me choque pas du tout.
Oh, il y a pire comme crime quand même.
Il y a pire. Ouais.
C'est normal de vouloir partager sa vie et la vie de quelqu'un qui partage le même idéal que toi. Ça me paraît tout à fait sain et logique, et encore c'est même une preuve de bonne santé selon moi.
Et sur les 13, les 6 garçons de Cotigny, il y a eu combien d'enfants de garçons de Riomont ?
6. Enfin, d'abord, on a 7 garçons et il y a 7 garçons.
Mon père, avouez-nous la vérité, c'est les deux Cotigny qui ont fondé Riomont. C'est une affaire privée, non ? C'est pas. Non ?
Je ne vous répondrai pas.
Alors, rappelez le numéro de
chaque génération de Riomont a ses deux Cotigny.
Monsieur de Cotigny a certainement persuadé beaucoup d'auditeurs de téléphoner à quel numéro déjà, Serge, puisque tout à l'heure, vous l'avez récité parfaitement bien.
Ah, ici, pour annoncer vos dons, faites votre promesse, comme Bernard de Cotigny l'a fait quand il est devenu scout, et il l'a tenu au-delà de toutes les espérances, comme le font d'ailleurs la plupart des garçons de Riomont. Donc, si vous voulez faire votre promesse, non pas de devenir scout, parce que pour la plupart, c'est peut-être un peu tard, encore qu'il n'y a pas d'âge, mais d'envoyer des sous pour aider Riomont, c'est vous téléphoner au 01 46 51 00 85, je pars sous le contrôle du marquis qui me regarde d'un air dubitatif, 46 51 00 85, et vous dites...
Moi j'ai le numéro en face.
Voilà. Mais c'est pour ça qu'il fait le malin. Comme
il
ça.
Est trop malin.
Et donc vous dites j'envoie de l'argent pour Notre-Dame de Riomont, l'adresse étant... village de Riomont, boîte postale 28
62 801.
Merci.
Liévin, Cedex.
Cedex.
Voilà. Et l'ordre Association Notre-Dame de Riomont.
Et alors, et si vous avez des enfants à envoyer, vous les envoyez au père Arquache qui prend n'importe quel sauvage et qui en fait un ingénieur du CNES.
Exemple Bernard de Cotigny.
Bah, la famille, vous êtes père de famille?
Non, pas encore.
Mais quand vous serez père de famille, vous enverrez vos enfants à Lyon?
Eh bien, je ne sais pas. Ça va dépendre de ma capacité à éduquer correctement mes enfants.
Donc, si vous n'y arrivez pas, vous refilez ça au père.
Et c'est la vocation des frères de Riomont, je le crois.
Il faut dire aussi qu'il y a des enfants internes à Riomont, mais on s'occupe énormément d'enfants sur Paris, ouais, par le scoutisme. Donc, énormément d'anciens aussi mettent leurs enfants.
Ça s'appelle les scouts de Riomont.
Voilà, ça s'appelle les scouts de Riomont. Un groupe très important sur Paris et un autre groupe important sur Foncombeau.
Je peux en témoigner. Moi, je les vois souvent à Notre-Dame des Armées à Versailles. Ils ont vraiment une tenue exceptionnelle. C'est même pas la peine de comparer avec, disons, d'autres obédiences de.
Ben merci Patrick, ça me fait plaisir parce qu'on est fiers de nos garçons et de nos filles. Et c'est vrai que c'est aussi une représentation du cœur de Riomont que de voir l'extérieur.
Alors Bernard, une dernière question. Si vous aviez un message à envoyer d'une part aux frères de Riomont pour leur dire. Ce que vous avez sur le cœur, et puis aux gens qui connaissent pas Riomont, qu'est-ce que vous leur diriez?
Pour les frères, je ne vais pas vous dire ce que je leur dirais parce que c'est trop intime. Mais pour ceux qui connaissent pas Riomont,
Riomont.net, voyons.
Par exemple, enfin ça c'est un beau portail, mais.
Je vais leur dire, allez-y.
Il faut qu'ils se rendent compte que ces moines qui sont là, qui ont une spiritualité propre qui est celle du scoutisme. Ils ont vraiment donné leur vie pour les garçons, et pour tous les garçons. Et les filles profitent aussi par ricochet de ce sacrifice. Et quand on est garçon, on se rend pas compte à quel point on profite de ça. Mais je peux vous dire que ça change la vie de quelqu'un. C'est plus que de l'éducation. C'est la transformation vers le bon Dieu. Et on s'en rend pas compte quand on y est. On s'en rend pas compte quand on est sorti. Mais au moment où on commence à construire quelque chose. Et qu'on réfléchit un peu à sa vie, on se rend compte que c'est ça qui nous a fait finalement, et que les frères ils ont tout donné pour nous.
C'est très beau ce que vous dites parce que c'est très profondément vrai. Et une chose, j'ai dit ça mille fois au père Argouès qui finit par en rire. Je crois que ce sont les seuls hommes au monde, les moines en général, mais ceux de Riomont en particulier, qui n'ont jamais une seconde de tranquillité. C'est-à-dire qu'ils peuvent jamais dire, bon, alors maintenant je m'en fous, je suis en vacances, je suis sur la plage, jamais. Ils bossent tout le temps, quand ils bossent pas, ils sont en prière, et sans arrêt, ils ont cette croix glorieuse qui est de porter la vie de 40 enfants avec, en plus, dans des tempêtes incroyables, des risques énormes. 40 enfants, c'est 40 fois plus de risques qu'un seul enfant. La méchanceté de l'entourage, de certains systèmes, de certains groupes, de certains lobbies, de certains médias qu'il faut affronter, la calomnie, le soupçon, il reste impeccable, la fatigue physique, le travail énorme qu'il faut.
Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur.
Ouais, mais ça vraiment c'est magnifique. C'est ce que vous venez de résumer d'une façon, je trouve très très claire et très édifiante, et je suis sûr qu'ils seront très sensibles à ça.
Ils savent très bien ce que les anciens pensent de Riomont, et je suis sûr que ça leur fait vraiment beaucoup de joie quand ils voient revenir des anciens. Bon, à la limite, nous, la famille, on est resté dans le giron, donc pour eux, ils ont l'habitude de voir nos visages. Mais je suis sûr qu'ils sont encore plus satisfaits quand ils voient un ancien qu'ils avaient perdu de vue, même s'il a laissé tomber la religion, etc. Mais ils se souviennent que dans leur vie, il y a quelque chose qui a changé grâce à Riomont, et ils reviennent et ils disent merci, ils passent. Et juste ils passent et ils vont voir le père Aouache, le père Alain, les pères, et ils disent bonjour et ils disent merci pour ce que j'ai reçu. Et puis ils disparaissent pendant 10 ans, et pour les frères, c'est, à mon avis, c'est ça leur vraie récompense.
Merci Bernard de Cotigny. Erwin Flock, je ne vais pas vous demander de répéter ce qu'a dit Bernard, mais vous, quel est votre quel regard que vous portez sur. D'abord, dites-nous ce que vous avez fait depuis que vous avez quitté le village.
Alors, je tiens effectivement à préciser que je suis en parfaite osmose avec ce que vient de dire Bernard. Donc, je vais pas le paraphraser. Moi, j'ai fait 2 ans à Riaumont et j'ai eu la chance de le faire au moment où c'était encore le père Revet qui était là, qui maintenant est présenté évidemment comme le fondateur, le grand ancien, presque un mythe vivant à Riaumont. Donc, c'est toujours un plaisir quand on l'a connu. Ce que je suis devenu depuis, j'ai aussi effectivement découvert en quittant Riaumont l'attachement que finalement j'y trouvais, à tel point que j'ai épousé une ancienne guide de Riaumont. Et donc partageant l'idéal dont parlait Bernard, ça fait je pense des foyers solides avec laquelle j'ai eu 7 enfants que je m'efforce d'élever d'élever pas trop mal pour pas avoir besoin de
cher
Riaumont qui a beaucoup de boulot
jeune,
déjà. Oui, moi j'ai 35 ans.
35 ans, oui.
Mais j'ai commencé tôt. Ça permettra de faire des grands-parents encore avec la pêche pour s'occuper des petits-enfants.
Et on s'en approche.
Ah, c'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu, il pourvoira.
Il y a Rémi Bert qui a fait une équipe de rugby. Il y a qui encore on a quelques amis qui ont fait des équipes de rugby, mais ça serait bien d'organiser une espèce
Peut dire un rosaire, ça changera.
Un rosaire, si vous voulez. Oui. Quand même moins rigolo que le rugby, il faut bien reconnaître.
Ah, il vaut mieux donner que recevoir.
Mais l'un n'exclut pas l'autre.
Non, mais certains ont voulu faire les mystères du rosaire. Ils ne pensaient pas du tout au rugby.
Ah
c'était,
bon.
C'était une volonté. Quand ils étaient à 13, on ira jusqu'à 15 pour faire un rosaire.
Alors, une fois qu'on est à 13, on n'a pas de raison de s'arrêter.
Peut-être pas par rajouter 5 mystères lumineux. Là,
oui, ah oui, c'est le service rendu par Jean-Paul. Bon, je ne vais pas parler de Benoît là parce qu'il m'a beaucoup déçu ces derniers temps.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
On va pas parler du
non, pape. On va pas dire du mal. Voilà, vous avez raison, mon père. Voilà, vous avez raison. Donc, je reviens à ce que vous nous expliquiez. Et vous êtes entré, donc, à quel âge, à Riaumont ?
Je suis rentré en 85, donc j'avais 14 ans.
14 ans. Et je veux pas être indiscret, mais le motif, c'était quoi ?
Tout simplement parce que j'étais un sale gosse.
Ah oui, c'est ça.
Et que j'avais besoin d'être un peu repris en main.
Ah. Il a une tête de... J'osais pas le dire avant qu'il dise ça. Il a une tête de garçon bien aimé, bien élevé, qui fait peur. Alors, dis donc, on est transformé en profondeur à Riaumont.
C'est incroyable.
Je sais pas si je vais envoyer mon fils finalement, parce que.
Ouais, moi j'ai envoyé le mien, je suis pas mécontent non plus d'ailleurs. Mais donc.
Sa femme va nous dire du bien de lui d'ailleurs tout à l'heure.
14 ans, vous rentrez à Riaumont et en 2 ans, ils vous remettent en ligne.
En 2 ans, je sais pas s'ils m'ont remis en ligne suffisamment en 2 ans, mais en tout cas, ils ont suffisamment ancré en moi cet idéal scout qui m'a permis ensuite de peut-être de tenir ma promesse, celle que j'avais faite à Riaumont, qui explique que je suis encore là.
Quel souvenir vous gardez de la vie là-bas,
des souvenirs quotidiens, des souvenirs émouvants de.
C'était dur parce que tout à l'heure on a parlé du froid, on a parlé de la vie un peu dure quand même.
Il est clair qu'à l'époque on n'était pas embêté par les normes de sécurité qu'on a aujourd'hui et les bâtiments n'avaient pas le luxe et le confort qu'on est obligé d'y mettre aujourd'hui. Donc il est vrai qu'on a eu froid.
Je viens de dire embêté. Il n'a pas dit protégé.
Non, bien sûr.
C'est ça qui est extraordinaire. Enfin vraiment, ils n'ont rien compris.
C'est-à-dire que Erwan, si je comprends bien, est venu après 1981, quand nous avons perdu l'agrément de l'État. Il ne faut pas oublier qu'on s'est retrouvé à manger tous les jours des pâtes, sans rien, et sans le chauffage. C'est-à-dire que le premier hiver, nos radiateurs ont explosé littéralement parce qu'ils avaient été mal purgés, et on s'est retrouvé sans rien, dans le froid et la famine, pendant plusieurs années, puisqu'on est devenu complètement privé. Et je vous assure que c'était très, 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 très dur. L'eau était gelée pour se laver le matin, et c'était vraiment, on est quand même dans des pays assez froids, et je pense que tu es venu en quelle année?
En 85. Effectivement,
ans après, mais il n'y avait pas encore ce qu'il fallait.
Je confirme effectivement que dans le bâtiment qui servait de dortoir, c'était un bâtiment qui a dû être aux normes à un moment, parce qu'il était énorme, avec des couloirs de passage, avec des portes battantes, etc. On sentait qu'il y avait une grosse vie là-dedans, et on était réveillé la nuit par les radiateurs qui claquaient, parce qu'effectivement, il gelait dans le bâtiment. On sentait bien qu'il y avait eu un moment des moyens qui avaient permis de construire ce bâtiment-là, et Riaumont avait été privé des moyens qui permettaient de les entretenir.
Parce qu'il faut dire que quand vous avez été privé l'agrément, à ce moment-là, vous avez perdu, entre guillemets, la clientèle de l'État.
Bah,
vous envoyait des gosses.
On nous envoyait des enfants, et puis on nous a fait grandir pour en prendre de plus en plus. Nous, une maison de 60 enfants nous convenait. 100 140, 160, on est monté jusque 180 parce que Riomont était une maison pour la, ce qu'on appelle la réinsertion sociale, qui était excellente et qui, il y avait des commentaires des juges pour enfants à l'époque, des magistrats qui étaient magnifiques et ils venaient nous voir, ils nous encourageaient, etc. Parce que pour eux, cette méthode originale scout, c'était quelque chose d'incroyable. Et on nous envoyait, je dirais, les pires, ceux qui s'échappaient, ceux qui étaient en fugue des autres établissements.
Ils vous encourageaient avec des subventions également, je précise.
Alors, on avait un prix de journée qui était très bas. Chaque fois, on essayait de le faire monter, mais comme on était des religieux et que, bon, moi, à part le père Revet, qui avait son salaire de directeur, et puis moi, qui étais diplômé d'État, il y avait beaucoup de bénévoles. Donc, c'était une maison aussi intéressante, parce qu'on ne payait pas les gens qui s'occupaient des camps, les chefs ten qui venaient par dizaines pour nous aider pendant les camps. Alors, il y a eu des diplômés d'État, heureusement, qui étaient avec nous, et qui ont tous été donc licenciés. On a licencié 40 personnes, et c'est là que j'ai fait ce procès contre le préfet d'Arras, et au bout de 16 ans, nous avons miraculeusement gagné ce procès, et c'est grâce à l'énorme somme que nous avons eue que nous avons pu mettre dans les normes le bâtiment dont parle Erwan, qui s'appelle Godefroy de Bouillon, et donc c'est grâce à ce miracle de la Providence qu'on a pu continuer, parce qu'autrement on était éradiqués comme maison catholique de l'enfance.
Effectivement, je voudrais rebondir sur ce que disait le père Agouache, puisque c'est un souvenir que j'ai de quand j'étais enfant là-bas. Le père parlait à l'instant de gamins qui ont été confiés à Riomont parce qu'ils fuguaient de là où ils étaient. Et moi, je me souviens d'anciens nous racontant qu'ils avaient connu des jeunes qui avaient été retirés de Riomont au moment du passage en 81 et 82, des jeunes qui avaient été retirés et donc placés dans d'autres foyers gérés par la DAS et qui avaient fugué de ces foyers pour revenir à Riomont. Ce qui prouve qu'on n'y était pas si malheureux.
Alors un jour, la gendarmerie me téléphone le soir en disant « Nous avons un garçon de chez vous ». Alors j'ai dit « Oui, comment s'appelle-t-il ? » ?»« Oui, un tel. Oui, je le connais très bien. Mais on ne sait pas où le faire dormir cette nuit. Est-ce que vous pourriez le reprendre à Riomont ?» Je dis « Comment ? Vous nous retirez les enfants d'un côté et vous ne savez plus où les mettre maintenant. Mais si je le prends ce soir, je serai accusé d'avoir repris cet enfant. » Alors. Est-ce que vous êtes capable de me faire un papier comme quoi il va coucher à Riomont ce soir ? Oui, monsieur l'abbé, je vous ferai un papier. Si vous pouvez le prendre, on ne peut pas le prendre. Et donc l'État n'était même pas capable d'assumer. Et puis il faut dire aussi que de façon criminelle, on a remis des enfants chez eux dans des situations impossibles. Et là, il y a eu des drames. J'ai des dizaines de visages d'enfants qui ont été arrachés à l'œuvre et qui ont été remis dans des conditions impossibles chez eux. Ça a été criminel. Il fallait tout faire pour faire tomber Riomont. Bon, il y a eu le miracle de ce procès qui nous a encouragés à continuer. Parce que grâce à ce procès qu'on a gagné la mise aux normes de Godefroy de Bouillon, et maintenant on a un deuxième bâtiment qui est aussi le nom d'un croisé, qui est le nom du roi lépreux, du petit lépreux, Baudouin IV de Jérusalem. C'est ce bâtiment dont a parlé Pierre-Arnaud de Ransard, notre architecte tout à l'heure, qu'il faut sauver.
Alors vous parliez du miracle de ce procès qui vous a permis de... Mais j'ai dit tout à l'heure, la vie de Riomont est jalonnée de ce genre de petits miracles ou de grands miracles. Et je me souviens qu'il y a une histoire de frigo qui est extraordinaire, non ? Un matin, vous ouvrez la porte et vous trouvez un frigo neuf devant la porte.
Ah oui, alors là, des histoires comme ça, là, il y en a eu de nombreuses.
Voilà, il faut votre frigo avait pété.
Oui, oui.
Et donc, vous étiez très embêté. Oui. Et le matin, en ouvrant la porte du village, qu'est-ce qu'il y avait devant la porte ? Un frigo tout neuf,
oui, oui.
Qui avait probablement été livré par Saint-Michel. Oui. Et ça, c'est des choses, des palettes de nourriture,
Le père Revet me racontait qu'une fois il était à genoux dans la chapelle et priait, je disais au Seigneur, mais alors vous la voulez cette chapelle ou vous la voulez pas ? C'était les agrandissements. Et il lui manquait environ 30 000 francs de l'époque, ce qui fait une grosse somme. Et il part, il quitte la chapelle et il y avait une enveloppe au fond de la chapelle avec 30 000 francs. Il a trouvé une enveloppe, il m'a raconté, c'était incroyable.
Alors on a un autre témoin à qui je vais demander de se présenter.
Je m'appelle Alain. J'ai connu Riomont en 95. Donc j'ai un cursus un peu particulier.
Mais vous n'êtes pas un garçon de Riomont.
Non, je suis pas un garçon de Riomont.
Vous n'êtes pas un gamin à 95.
Non, voilà. Riomont a une nette particularité qui accueille aussi quelquefois des adultes. Donc là, je peux remercier quand même le père Arguarge de m'avoir accueilli un jour où ça allait pas très bien.
Très bien, oui.
Je suis passé un peu par différents une enfance un peu ballottée, donc j'aurais pu être gosse chez vous, j'aurais pas dépareillé les
gosses. Je crois que, Alain, que tu as eu une enfance terrible. Tu m'as raconté déjà, je te demande pas les détails, mais non, tu as eu une enfance terrible.
En deux mots, c'est entre un beau-père alcoolo et une mère malade mentale, disons le mot. Hein. Donc on s'élève comme ça et on essaye de bâtir sa vie, on garde quand même des séquelles. Il y a deux étapes dans ma vie qui m'ont marqué. Il y a déjà la, j'ai vécu dans une communauté charismatique qui s'appelle Le Pain de Vie, donc qui accueille des adultes aussi, des adultes en grosse galère. Il y a déjà eu cette approche. J'ai eu cette approche de Dieu, comme ça. Ensuite, il y a, j'ai eu une adresse. On m'a invité, des scouts d'Europe m'ont invité à venir dans un camp. Bon ben j'ai participé à un camp. Puis j'ai eu cette adresse de Riomont. Et alors j'ai téléphoné au père Arguarche. Vous arrivez. Vous pouvez rester 15 jours. Puis en fait je suis resté 2 ans. Donc moi il y a un, si on pouvait résumer Riomont, il y a une parole de saint Paul qui me tient bien. En Jésus nous avons le mouvement, l'être et la vie. Je pense que ça résume bien Riomont. On voit ces moines qui sont des contemplatifs et puis en même temps ils sont hyper actifs. Il peut arriver n'importe quoi à Riomont, un gosse se tire, quelqu'un débarque, il est dans la galère. Et en même temps il y a toujours ces horaires, ces moines qui vont prier. Puis après ça reprend. On reprend la vie avec les gosses qui est pas facile. Et puis bon, j'ai tout de suite été. Il y a le lieu qui est un lieu qui est quand même particulier, qui est le lieu, les bâtiments, l'accueil. J'avais besoin de fringues. Bon, on m'a jamais demandé. On n'a pas essayé de. J'étais pas un produit, quoi. J'avais pas l'impression, ni au point de vue non plus. Hein. J'avais dans ces deux structures, j'avais vraiment pas l'impression d'être un produit dont on se sert, dont on veut rentabiliser le.
La présence,
voilà.
Mais c'est-à-dire, on vous a pas demandé de travailler.
Si je
pas...
travaillais, mais je veux dire,
oui, pas une obligation.
Je travaillais, je participais même beaucoup à la vie de la communauté. D'ailleurs, le père me disait, c'est trop d'un coup pour toi. Tu découvres trop d'un coup au niveau du scoutisme. Hein. Donc j'ai d'ailleurs fait ma promesse au scout à Riomont.
À quel âge
35 balais, 35 ans.
C'est incroyable ça. C'est super de faire.
Oui, non, mais ça booste bien. On parle de coaching, de booster la vie. Oui. Moi, je crois qu'au niveau de Riomont, ils sont toujours, comme on dit, toujours prêts au niveau du scoutisme. Ils sont toujours bien dans leur tête. Je les revois 12 ans plus tard, ces frères. On n'a pas l'impression qu'ils ont vieilli.
Oui, c'est ça, c'est très étonnant, effectivement.
Oui. Je me suis baladé, je me suis fait chambrer une fois par un ou deux mômes, vous êtes frileux. Puis en fait, je me suis baladé en culotte de cuir quand même 2 ans. Et niveau santé, j'étais un môme, j'étais un ado, un adulte aussi qui s'enrhumait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'était le cauchemar.
Tu m'as dit, en fait, que tu avais revécu une adolescence que tu n'avais pas vécue à Riomont. Tu as refait une partie de ta vie. Un jour, tu m'avais dit ça au village. Tu as refait une partie que tu avais sautée.
Oui, il y a comme une guérison intérieure. Il y a comme une. Je parle pas de psychanalyse. J'ai fait une psychanalyse aussi, donc je ne sais pas. Il y a. C'est plus fort que la psychanalyse. C'est une vie intérieure. Ça touche. Riomont touche la vie intérieure des enfants, des garçons, des adultes qui passent là-bas.
Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Si on parle d'exemple, est-ce que vous avez trouvé un exemple auprès des enfants par leur jeunesse, par leur fraîcheur, par leur soif de vivre, etc., ou auprès des frères?
Des frères qui donnent l'exemple par une vie. C'est pas des gens qui sont boulot métro dodo, quoi. Ils sont tout le temps sur la brèche ils donnent vraiment l'exemple de gens au service du Christ.
Et aujourd'hui vous êtes encore en contact avec eux?
Toujours, je passe toujours mes Noëls chez eux. J'aurais été plus jeune, j'aurais eu 18-20 ans, je pense que j'aurais demandé à rentrer à Riomont.
Comme frère, carrément comme frère.
Ouais, mais bon, peut-être
pas trop tard, non ?
Aussi, quand même.
En tout cas, tu es dans une autre aventure, puisque tu essaies de passer une licence de droit actuellement à Nevers. Tu as repris tes études.
Oui, j'ai repris mes études.
C'est incroyable.
Je sors pour les gens qui connaissent un petit peu l'ancien cursus de 5e de transition.
Les 5e de transition, je me souviens de ces classes.
Oui, vous en avez eu chez vous. C'est fabuleux.
C'est fabuleux qu'ils soient en train d'essayer de passer une licence de droit.
C'est la quatrième pratique,
j'ai une scolarité morcelée, j'ai passé mon brevet d'animateur et mon
BAFA,
puis mon brevet de secourisme, ça a été mon premier boulot, puis après j'ai enchaîné.
C'est une belle réussite en tout cas. Alors on a Louis Fontaine au téléphone, on va lui donner la parole tout de suite. Vous voulez dire quoi,
Victoria ? J'avais un message d'une maman d'enfants qui sont à Riomont depuis 18 mois, qui engage les gens à donner de l'argent à cette association, car le père Argouache fait un travail formidable qui n'est pas fait dans les autres institutions.
Ça me paraît un bon résumé de la situation. Louis Fontaine ?
Oui, je suis là.
Comment allez-vous ?
Très bien, Serge. Content de vous entendre. Vous savez que j'ai beaucoup d'amitié pour vous.
Eh bien, vous savez que c'est réciproque. Moi, les Fontaines, pour moi, c'est une famille à la sagesse de laquelle je n'hésite pas à m'abreuver. Vous êtes un... Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît, Marquis. J'ai fait un mot. Bon, c'est pas réservé. Vous n'avez pas l'exclusivité des bons mots, quand même. Parce qu'il a levé les yeux au ciel d'un air de dire, oh, dis donc, hein. Vous êtes écrivain, vous avez été éditeur, vous êtes toujours éditeur, je crois.
Non. Éditeur en retraite.
Éditeur en retraite. Toujours, oui. Et vous êtes surtout un riomontiste fanatique.
Tout à fait. Je salue le père Rouache qui se donne un mal énorme pour sauver son village avec tous les frères et le père qui les dirige en même temps. Alors, moi, vous savez, mon témoignage, je ne sais pas si vous voulez me poser une question.
J'attends votre témoignage. Quel est votre...
Mon témoignage, il sera bien misérable à côté.
Regard sur Riomont.
Pour Riomont, j'ai eu une double chance, d'abord. La chance de connaître Riomont par mon fils aîné. Et en même temps, il m'a fait connaître le père Revet. Et je peux vous dire que c'était pas une petite affaire, parce que c'était un grand monsieur... avec des yeux très doux, très bons, mais c'était une personnalité incroyable, qui m'a beaucoup marqué. Et quand je suis rentré en rapport avec lui, au moment où j'ai fait un livre justement pour le scoutisme, j'ai voulu faire un article sur Riomont, j'ai été trouvé le père Revet, et là, le phénomène dont vous avez parlé, qui est quasiment miraculeux, je discutais avec le père un matin, et il me dit, j'ai besoin d'une somme, et je ne sais pas si je vais la trouver, mais comme j'ai une telle confiance en Dieu, quand je vais prendre mon courrier, je suis sûr que je vais trouver la somme. Alors on a ouvert le courrier ensemble, et il a sorti un chèque, c'est exactement la somme qu'il a donnée. Alors on dira que c'est une histoire qui se répète, et les sceptiques pourront dire, mais c'est pas possible, j'étais témoin, j'y ai assisté.
Oui, mais ça n'étonne que ceux qui ne connaissent pas cette maison.
Ouais.
Et vous êtes historien du scoutisme ?
Oui, un petit peu.
Et comment, dans l'histoire du scoutisme et dans l'histoire de la spiritualité scout, comment situeriez-vous Riomont ?
Riomont, c'est la fidélité. Hein. Riomont, c'est la suite du Père Sauvin. C'est parce que les frères sont sous la houlette pratiquement du père Sauvin qui avait rencontré le père Revet à Vézelay et qui lui a lancé l'idée et lui, tout plein d'humilité, a dit « je ne sais pas si j'aurai les épaules pour faire ça » et puis finalement il y a été entraîné et il a fondé Riomont. Hein.
Si vous aviez des petits-enfants, vous en avez d'ailleurs, mais est-ce que vous conseilleriez à votre fils d'envoyer ses fils à lui à Riomont ?
Écoutez, oui peut-être, surtout ce que je conseille à tous mes petits-enfants, c'est de faire du scoutisme, mais dans l'orbite de Riomont, et sous la houlette, et sous la protection et les prières des pères de Riomont, hein. Et si vous voulez, pour terminer, ce que je pourrais dire, c'est de conseiller à tous les auditeurs de Radio Courtoisie de faire vraiment un effort, parce que il faut absolument que cette église dont vous avez parlé, cette basilique incroyable, faite par des gens très pauvres en fait, hein, et ben il faut absolument, au moment où on construit des mosquées, il faut les aider à construire cette basilique.
Oui, et puis il faut les aider à maintenir ce village qui est une qui est un havre de paix, de spiritualité, et une école de la vie extraordinaire.
C'est un foyer qui survit dans un monde pourri et qui nous permet d'espérer, qui nous permet d'avoir vraiment l'espoir peut-être de s'en sortir.
Merci Louis Fontaine. Je rappelle, alors Louis Fontaine est l'auteur d'une histoire du scoutisme qui est un document à peu près unique parce qu'il y a tout dedans.
Monsieur Fontaine s'adresse à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Je crois que c'est le moment de dire que, en effet, il y en a des milliers qui n'ont pas la foi ou qui ont une foi différente. Et moi, j'espère qu'ils sont, comme moi, convaincus que Riomont, qu'on a la foi catholique ou pas, est vraiment une œuvre magnifique et une œuvre qui permet tout simplement de structurer des jeunes qui sont en mauvaise posture. Alors, si on n'a pas la foi, on va peut-être dire que c'est un remède de cheval, que cette éducation catholique, mais c'est un remède quand même.
Oui, d'ailleurs, on laisse une grande liberté à ceux qui viennent à Riomont. On est très délicat vis-à-vis des âmes. Il ne faut pas croire qu'on est embrigadé à Riomont. C'est justement parce que on a cette délicatesse et cette charité vis-à-vis de tous ceux qui y viennent que les gens se sentent à l'aise et se sentent bien. Et après, il y a la grâce de Dieu.
Et puis, il faut y aller. Il faut voir ce que c'est que ce village. Tant qu'on n'y est pas allé, on a du mal de marquer.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand vous avez posé la question. C'est un peu parti dans tous les sens. Allez au moins une fois pour voir comment ça fonctionne, pour voir ce que c'est. Et là, vous serez épaté quand même, il n'y a pas de secret.
Alors maintenant, je vais me tourner vers quelqu'un un peu inattendu, parce que ça n'est pas un garçon de Riomont, pour l'excellente raison d'abord que c'est pas un garçon, mais c'est une jeune femme, une future maman, qui a épousé un garçon de Riomont. Alors on a donné la parole aux garçons de Riomont qui nous ont dit tout ce qu'ils devaient à ce beau village, mais je pense que ça serait intéressant, j'ai pensé que c'était intéressant de demander à une jeune femme de nous dire en quoi l'homme qu'elle a épousé, qui est un garçon de Riomont, lui paraît différent des autres. Qu'est-ce qu'elle sent que Riomont a pu apporter à celui qu'elle a choisi pour époux?
Eh bien, je pense que l'homme que j'ai épousé était déjà béni des dieux au commencement. Mais je pense que Riomont a pu lui donner les moyens de s'exprimer, de devenir ce qu'il était, ce qu'il pouvait être par nature. Quand vous m'avez demandé de participer à cette émission, j'étais un petit peu embêtée parce que je n'ai jamais été à Riomont. Donc j'ai demandé à mon mari de me raconter ses impressions, de me demander ce que c'était. Et d'après ce qu'il m'a dit, je pense que Riomont est le seul endroit qu'il ait, pas le seul endroit sur Terre, j'espère, mais le seul endroit qu'il ait pu fréquenter, qui soit un endroit normal pour élever des enfants, en fait. Qui soit un endroit où on apprend la réalité aux enfants. La réalité toute simple, où on n'en fait pas des espèces de jeunes qui planent, qui sont nourris de la culture télé. Ah, c'est super, je me jette du cinquième étage, je retombe sur mes pieds. Qu'ils ne soient pas nourris.
Oh, le jeune, c'est bon.
Qu'ils ne soient pas nourris de la culture politiquement correcte. Ah, vous ne travaillez pas, vous vous syndiquez, puis hop, vous touchez de l'argent sans rien faire. C'est merveilleux. Non, je pense qu'à Riomont, on apprend la réalité ancrée sur Terre, des choses toutes simples comme le mérite après le travail, l'effort, comme le froid, je sais pas combien de fois à Riomont, mais je dis que les enfants apprennent que quand il y a un problème, il y a un appareil qui tombe en panne, il y a des conséquences et il faut des efforts pour essayer de rétablir. Ils apprennent la vie.
Il a le bon sens, au fond.
Et le bon sens, exactement. Le bon sens qui fait défaut à notre société actuellement. Et en même temps, Et ces enfants apprennent la réalité du ciel. Ils ont une éducation spirituelle qui malheureusement fait énormément défaut maintenant.
C'est une païenne qui nous le dit, puisqu'elle a commencé par déclarer que son mari était béni des dieux. Oui. Vous voyez, j'avais raison, Serge, de signaler tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin d'être catholique. Une païenne certain. De choc comme ça.
Je ne suis pas certain qu'elle soit païenne, malheureusement. C'était une expression toute faite. Et quand vous demandez, quand votre mari vous dit le premier-né, on l'enverra à Riomont, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je dis d'accord. J'espère réussir. Non, pas tout de suite. Bon, alors, un peu à moi avant l'enfant.
On va dire la vérité aux auditeurs.
Ouais, oui, ce serait temps.
Ça serait malhonnête de ma part de le cacher, mais vous venez d'entendre ma belle-fille. Parce que mon fils, qui est un garçon d'Oriomont, prétend qu'il n'est pas capable de parler dans le micro. Alors, on ne va pas donner la parole. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant que de donner la parole à la jeune fille qui a eu la gentillesse de m'en débarrasser.
Après que vous en soyez débarrassé vous-même.
Sur
les pieds du père Aguilar.
Merci Isabelle. Voilà, mon père, on a en gros 9000 euros après cette deux promesses. J'espère, je forme le vœu avec beaucoup, beaucoup d'insistance pour que cette nuit et demain matin, ça se produise de la même manière. Alors, bien évidemment, si vous écoutez cette nuit ou demain matin, c'est pas absolument utile de téléphoner pour dire je fais ma promesse. Faites votre promesse in petto et envoyez et envoyez le chèque
direct
in extenso.
Les païens, les parpaillots et même les catholiques.
Au village d'enfants de Riomont,
on a répété,
postal 28, 62801, Liévin-Cédex. Et le chèque à l'ordre l'Association Notre-Dame de Riomont.
Je voudrais ajouter, parce que mon excellent camarade Goffman a dit les païens, les parpaillots, et même les catholiques, mais je sais que nous avons des auditeurs musulmans, des auditeurs orthodoxes. Si vous avez une école musulmane qui fait la même chose, il ne faut pas hésiter, envoyez-lui du fric, mais ça m'étonnerait. Moi, je n'en connais pas personnellement.
Vous ne prenez pas de risque.
Donc, si vous avez envie d'avoir de beaux enfants français, vous pouvez envoyer de l'argent à Riomont.
Et puis, s'il tombe quelques piécettes de la cellule du père Aguarche, envoyez 110 euros pour vous abonner un an au Libre Journal à SDB, 4 places 36, 75 010 Paris.
Ouais, comme ça, je pourrais donner un peu d'argent au père. Mais, et si vous êtes orthodoxe, fraternellement, au titre de d'un œcuménisme bien compris, vous pouvez même, l'argent orthodoxe n'est pas refusé. Aucun argent n'est refusé.
Même celui des francs-macs. Hein.
Ah, oui, même bon, celui des francs-macs. Oui, absolument. Tiens, avec eux qui sont riches comme Crésus.
Voilà.
Une demi-minute pour, non pas une conclusion, mais une prolongation.
Oui, tout simplement pour dire que si quelqu'un voulait faire un leg, il y a une formule, donc nous écrire pour que nous puissions donner le bon filtre pour que l'État ne prenne rien. Et puis, Serge, pour vous remercier avec beaucoup d'émotion, parce que cette émission était très profonde, je crois, surtout de par les témoignages que j'ai entendus. Bien sûr, ça représente ces visages qui étaient là ce soir, des milliers et des milliers de visages d'enfants qui ont trouvé un sens à leur vie au village d'enfants de Riomont. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est vraiment du fond du cœur, Serge.
Merci mon père d'être venu, merci de faire Riomont et de nous préparer une génération montante qui sera probablement meilleure que nous, ça ne va pas être difficile. Hein, Martin ?
La sauvegarde.
La semaine prochaine, je ne sais pas, on fait une émission ou pas,
je pose la question. Bon.
Vous avez invité le Pol Pot de 77 en force, il va
non,
faire son entrée.
Non, pas la semaine prochaine.
Non.
Ne ricanez pas, Goffman. Ça n'est pas. Non, la semaine prochaine, je serai en vacances, la semaine suivante aussi. Ben enfin,
vous,
en vacances.
Nous aussi.
Oui, vous aussi.
Je salue tous nos bienfaiteurs et tous nos amis. Que Dieu les garde et les bénisse, c'est votre formule. Merci, Serge.
Merci à vous. Faites votre promesse. À bientôt au début janvier. Que Dieu nous garde. Yeah.